monter au ciel.
Bonjour. Ah, le pire chanteur français. Il y en a tellement qui sont mauvais que on se demande lequel est le pire. Ah, je sèche. Bah, Clo-Clo, je le trouvais vraiment pas bien quoi pour chanter, mais il est un peu vieux et puis il est mort lui, ça maintenant, carrément alors. Benabar, il est pas terrible, hein, par exemple.
Qu'est-ce que vous aimeriez lui faire?
Lui faire à lui? Mon Dieu, rien, le pauvre homme. Il faudrait qu'il trouve un autre métier. C'est vrai, ouais. Ce serait pas mal. Mais il y en a d'autres qui sont vachement mauvais, mais je sais pas les noms. Plus ils sont mauvais, moi je connais les noms, en fait. Et si je pouvais le faire par une baguette magique, oui, effectivement. Je les mettrais dans un autre monde parallèle où ils chanteraient plus.
Éphémère 80.1 Éphémère 89.1 Irritant.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 22 octobre 2011. Nos programmes pour cet après-midi à 13h30 du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, pré-finale de Coupe du Monde. À 15h du reggae avec Jeannot Dead et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la série fantastique que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end...
Et... Moi, je regrette fortement que vous ayez plus la partie en taille.
Ah oui, mais alors c'est pas qu'on veut pas l'avoir, hein, c'est qu'on ne trouve personne qui puisse nous faire quelque chose de bien, quoi. C'est ça, quoi.
Ah,
ouais. C'est surtout ça.
C'était ça.
Ah oui, parce que nous, alors je fais un appel, hein, s'il y a des professionnels qui vendent des produits en taille.
Tu veux foutre la merde chez moi parce que ma copine va me regarder bizarre, non, si je vais chercher dans la bibliothèque.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geek, avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue, j'ai un petit peu la voix de basse là en ce moment, mais je vous rassure, je sens juste de ma grippe. Bonjour.
Ah, je croyais que tu venais de te réveiller.
Oui, enfin presque. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Bonjour Duce.
Bonjour.
Bonjour aussi à nos invités qui nous ont rejoints, à savoir, ils viennent de se rendre compte qu'on n'hésite pas à se servir des archives les plus compromettantes, Sébastien Laurent et Rafi. De l'organisation du Toulouse Game Show sont là parmi nous.
Bonjour.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous revoir. Je vois que vous n'avez pas la rancune tenace après toutes les vacheries que vous avez sorties sur votre antenne en croyant que ce sera jamais relevé.
C'est la dernière fois qu'on vient.
Et ils sont là, bien évidemment, entre autres, pour parler du Grand Toulouse Game Show qui aura lieu fin novembre. Attends, je vais réessayer avec ma belle voix. Du Grand Toulouse Game Show. Qui aura lieu donc en novembre
ça.
Vas-y, à la Bèche.
Ah, bravo. Oh.
Juste après
il n'a pas sorti des archives là par contre.
Juste après dommage. Le salon BD de Blagnac où nous y serons. Non pardon, je me suis trompé.
Bon, Colomiers.
Oui, bon d'accord, ok. Où nous serons aussi en direct d'ailleurs. Accessoirement, vous êtes là pour nous donner quelques informations, mais aussi pour parler un peu du warm-up qui aura lieu donc le week-end prochain, si je me trompe.
Le samedi 29 octobre.
Voilà. Qui est une nuit TGS. Alors qu'est-ce que donc
pas du tout.
Ce n'est plus la nuit
eh
TGS.
Oui, ce n'est plus la nuit.
C'est une journée maintenant.
On voit que suivi l'actualité, c'est bien.
The party maintenant.
Je suis désolé, j'ai bossé cette semaine puisque honnêtement en fait vous nous aviez proposé de venir nous voir hier et je suis resté au taf jusqu'à 23h. Donc ce n'est plus une nuit. Alors qu'est-ce que c'est dans ce cas-là?
C'est une après-midi geek en fait qui a lieu au Studio One samedi, samedi 29 donc une après-midi qui commence à 14h jusqu'à 22h qui ressemble énormément effectivement à ce qu'on faisait précédemment qui s'appelait les TGS Night Show. On avait décidé en fait de changer le nom puisque au début les TGS Night Show on le faisait au Havana Café. Et le Havana, oui. Feu le Havana Café.
Oui, qui n'existe plus.
Voilà, exactement. Voilà. Il y a un magnifique Chrono Drive maintenant à la place. Bonjour à eux, s'ils nous écoutent. Donc du coup, effectivement, là-bas, on le faisait jusqu'au bout de la nuit. Donc on ouais, appelait ça Night Show.
D'un autre côté, vous y avez gagné parce que la Sono au Havana, c'est,
ah, enfin,
c'est du vol, franchement.
C'est, oui.
Non, mais les concerts qu'il y avait là-bas, là, c'était inaudible, quoi. Et l'ambiance, c'était un petit peu lourd. Après, c'est vrai que vous aviez la place pour faire plein de choses. Voilà, les recoins, c'était assez fun.
Non, mais on est très content d'être en centre, hein, maintenant.
Les recoins.
Hein. Ah, je crois qu'il était. Non, on parle plus de hentai, là.
Ah, ben, pardon.
Fini, monsieur.
Oui, non, ça, c'était un enregistrement d'avril dernier. Hein. Attention, ne pas se tromper. Là, on est en octobre. Et on n'est plus dans la saison des rhumes des foins, mais dans celle de la grippe. On va rappeler un petit peu le principe du Toulouse Game Show, puisque le Toulouse Game Show est un événement festif de culture. Soigneusement méprisé par les grands médias qui parlent de ces jeunes qui refusent de grandir et qui ont la trentaine, alors qu'en fait pas du tout. On est vraiment, ben je veux dire, dans les franges, je veux dire, de l'ouvoir potentiel des nouvelles cultures.
Ah oui, non, mais en plus là-dessus j'ai une jolie anecdote à raconter qu'on a eu de.
Allez, par, enregistreur.
Par Marcus, qui était venu à une dédicace.
Oui, The Poulet, alias le maître du chat.
C'est ça, l'inventeur du Poulet Time. il nous disait qu'en fait, il essayait de voir avec un de ses acolytes la possibilité de faire une émission vraiment jeux vidéo sur les grandes chaînes, sur vraiment TF1, France 2, France 3.
Ouais, ça, il avait fait ça au moment où il avait quitté Game One, si je me souviens.
Voilà,
bien.
Donc, mais il insistait tous les ans, il va proposer le projet. Et il me dit, c'est un truc de malade, parce que chaque fois que j'arrive dans une chaîne pour présenter mon projet, on me dit oui monsieur, alors l'unité jeunesse c'est par là-bas en fait. Oh là là. Non, mais attendez, c'est pas l'unité jeunesse quoi, c'est les jeunes de 80, ils ont plus 10 ans quoi, donc voilà, donc c'est vrai que c'est quand même assez méprisé par l'ensemble des médias, à part les chaînes vraiment, les chaînes geek.
Oui, et encore.
Même Canal fait quand même une émission de jeux vidéo, je crois, Canal Plus, non ?
Oui. Oui, mais on se demande pourquoi cette émission tout d'un coup est ressortie. D'ailleurs, c'est assez amusant. Mais j'ai des anecdotes assez amusantes sur comment dans le JT d'une grande chaîne de service public, une collègue arrive à passer ses sujets sur la bande dessinée. Des fois, c'est franchement, c'est assez hardcore.
Ah mais après voilà, le problème c'est qu'il
y a un immobilisme, un jacobinisme, un BHLisme vraiment sans tripotant. Ça a fait un petit peu peur. Heureusement, vous êtes là pour montrer que justement, ça intéresse des gens, voire même plus de gens que dans un salon de l'érotisme.
Ah oui, voilà, exactement.
Ça. Tu vois que on revient au hentai.
Tu fais les chiffres de près, je vois. C'est bien. D'ailleurs, je crois que tu comptes, c'est ça, c'est toi-même qui compte en fait. Tu fais pas confiance aux gens.
Je faisais les chiffres, j'inventais les chiffres à un moment, effectivement. Donc, le Toulouse Game Show s'est vraiment installé, je veux dire, comme un événement référent, un événement, je veux dire, assez important, aussi bien auprès des commerçants, des éditeurs, des associations et même du public de passionnés, et aussi du grand public. Il y avait toute cette question qui était maintenant. Comment vous allez faire pour accueillir encore plus de guests, d'invités, de public?
C'est une question qu'on s'est posée effectivement après le succès de l'édition 2010. On a trouvé une solution qu'on va mettre en place donc dès cette édition, qui est en fait un chapiteau extérieur qui va être totalement accolé au bâtiment Agora, c'est le grand bâtiment où il y avait la scène, qui va donc agrandir le bâtiment de 1200 m². Mais ça sera vraiment une extension de salle, c'est-à-dire qu'on n'aura pas l'impression d'être dehors, c'est-à-dire que c'est vraiment une extension avec il y aura un sol, ça sera chauffé, vraiment on n'aura pas, il y aura pas de choc thermique justement avec des gens qui froid tout d'un coup en passant dans un chapiteau. Non, c'est on a trouvé cette solution temporaire, donc ce qui nous pose d'autres problèmes puisque du coup on n'a plus donc la place, on installe en fait sur le parvis de Diagora. Et donc c'est le parvis qui nous servait, nous faisons le tampon pour le public, pour faire les files d'attente. Et donc du coup on est obligé de sacrifier des parkings maintenant devant pour mettre les files d'attente. On a demandé des autorisations auprès de la communauté d'agglomération pour faire des arrêtés de circulation, puisqu'on est obligé d'empiéter sur la route en fait.
Et puis c'est vrai qu'avec le monde de la foule qu'il y aura et les gens qui vont se préparer, qui vont préférer être dehors avant de rentrer et tout le reste, ça va être quelque chose de.
Mais on espère qu'il ne sera pas comme l'année dernière. On espère qu'il va pas neiger.
Écoutez, vous emmerdez pas, vous faites les accréditations à la malterie, comme ça les gens ils attendent avec une bière. En plus c'est des partenaires, en plus.
Attends, il y a des mineurs.
On peut boire un soda aussi.
Ouais,
c'est ça.
Alors, quand même, le Toulouse Game Show, c'est une référence évidemment au Tokyo Game Show dans le nom. C'est vrai que c'est un petit peu orienté à la fois sur les jeux vidéo et à la fois ce qu'on appelle les cultures populaires asiatiques et tout le reste, c'est-à-dire manga, bande dessinée, dessin animé et tout le reste. Vous êtes quand même beaucoup plus ouvert sur le côté culturel. Pur et dur, voire partenariat avec les entreprises, puisque avec le Centre culturel franco-japonais de Toulouse, vous aviez tenté un salon des entreprises. Claude Yoshizawa se souvient peut-être de ma question sur les cosplayers qui risquaient de perdre un peu, je veux dire, les chefs d'entreprise qui viennent. Donc je sais pas, tu voulais dire quelque chose.
Non, mais je trouve qu'Anne ne sera pas là.
non, mais.
Non, il est coincé dans une affaire à Lille en ce moment. Oui.
Non, et puis on n'a pas de Carlton à Toulouse. Donc,
Sofitel. Ah oui, Crown Plaza.
Non, mais pour revenir sur le salon, effectivement, le forum d'affaires que Claude Yoshizawa avait organisé, c'est un salon qui a pour vocation de ne pas être annuel, mais tous les deux ans en fait. Mm-hmm. Et c'est quelque chose qui a plu aux gens qui se sont déplacés, puisque dès la fin du salon. Il a eu des confirmations de personnes qui lui ont dit « Nous, on revient à la prochaine édition. » Puisque normalement, sur un salon de ce style, c'est quelque chose qui est assez froid. Ils font effectivement des rencontres très professionnelles qui n'ont rien à voir avec le salon dans des pièces dédiées, en fait, où ils parlent vraiment business. Mais justement, ce qui leur plaît, c'est de, quand ils font leur pause, c'est d'arriver dans un univers peuplé, coloré, de gens qui sont fans du Japon. Voilà, donc du coup, c'est un petit plus par rapport à un colloque classique.
Seulement, du coup, vous faites salon samedi et dimanche, et pour ce genre d'événement professionnel, ça a plutôt en général lieu le vendredi.
Voilà, donc mais on est en train d'étudier toutes les possibilités. Très franchement, on se pose la question de savoir si on va pas ouvrir le TGS sur le vendredi après-midi également. Mmh. C'est quelque chose qui est en train de germer dans nos esprits, mais on est obligé d'attendre la fin de cette édition pour voir comment ça se passe au niveau influence, parce que c'est clair que si tout d'un coup on se retrouve avec 35 000 personnes sur le salon, ça va être compliqué de maintenir le salon à Diagora d'une part, même avec le chapiteau supplémentaire. Donc c'est des choses qui vont arriver très très vite, hein. Couronne, fin de l'année, début de l'année prochaine, on se sera placé déjà sur pas mal de choses sur le lieu, sur les nouvelles choses qui vont arriver, quoi.
Alors, juste pour rappeler, je sais pas si ça a été dit tout à l'heure, puisque vous êtes pas venu les mains vides, puisque vous êtes venu avec des places à faire gagner pour le TGS Party de samedi prochain.
Voilà.
Donc voilà, amis auditeurs qui voulaient participer ou venir voir à quoi ressemble le TGS Party, vous vous appelez au 05 61 580 580.
C'est toi qui réponds, hein, non, Dus.
Voilà, et on vous posera une question, et puis vous pourrez gagner des places pour le TGS Party.
Bravo. Je me demande si on va pas les passer à l'antenne pour leur poser une question et pour voir s'ils sont franchement des geeks et pas uniquement par le fait qu'ils achètent des produits de la marque, voilà. Apple.
Ça commence, là, j'ai l'impression.
Bonjour.
Oui, bonjour, c'est pour les places de la TGS Party.
Oui, bonjour. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes capable de me citer là, maintenant, de suite, les 4 transformations des 150 premiers Pokémon?
Comment?
On va te prendre en antenne. Dustu, s'il te plaît. T'appuies sur OK, tu le prends. Le premier, il a droit à ne pas de questions, voilà. Parce qu'on est gentil. C'est vrai que donc il y a eu cette idée-là. Il y a eu une autre idée qui était en avril dernier, qui était celle du salon du tourisme. Malheureusement, il y a eu le tremblement de terre à Tokyo, et ça c'est devenu un élan de solidarité qui était absolument formidable et magnifique. Mais faire un truc business, faire un truc tourisme, c'est parce que la cuisine c'est trop mainstream avec toutes les télé-réalités culinaires.
Non, mais c'est en fait. Le problème est qu'on essaye de mettre en place des cours effectivement de cuisine ou des ateliers, parce qu'on sait qu'il y a une grosse demande là-dessus. Mmh. Hein, sur le souci qu'on a, c'est on a déjà des problèmes au niveau hygiène, puisqu'en fait quand on fait des cours de cuisine, il faut quand même que ça soit fait dans les règles de l'art. Il y a un respect de la chaîne du froid.
Surtout que tout le monde vient pour du sushi, donc du poisson cru.
Donc du coup voilà, c'est un peu compliqué. Et après il faut trouver les personnes qui peuvent vraiment, alors qui savent cuisiner, ça on peut en avoir, il y a pas de problème. Mais maintenant des gens qui sont assez pédagogues pour apprendre aux gens à cuisiner, ça c'est autre chose. Donc il faut arriver à trouver un juste milieu et à trouver vraiment les bonnes personnes et le bon moment, le bon timing pour le proposer, quoi.
Oui. Pardon. Non, parce que en même temps, donc point de vue cuisine là-dessus, on a compris. Je sais pas. Après, il y avait eu des démonstrations qui avaient pas mal surpris à la fois les démonstrateurs eux-mêmes par le public qui venait, le public justement par le fait qu'ils avaient ce genre de démonstration d'arts martiaux. Où c'est que ça en est de ce côté-là?
Alors sur tout le côté effectivement arts martiaux, nous sur le TGS, on va être obligé de réduire énormément. Sur le TGS du mois de novembre, parce que étant donné qu'on a une affluence d'invités cette année, on a beaucoup on accueille plus de on accueille beaucoup plus d'associations que l'année dernière, hein, beaucoup plus de spectacles, beaucoup plus de concerts, et donc du coup on a fait moins de temps pour faire de la démonstration d'arts martiaux. Alors on est toujours partenaire avec Camille de l'école d'arts martiaux. On s'est mis d'accord qu'il y aura une présence accrue de d'arts martiaux sur le TGS Ohanami, en fait, qui va changer d'ailleurs, qui va devenir un salon, un mini TGS, mais où il y aura toujours beaucoup de culture. Mais c'est vrai que sur le TGS du mois de novembre, malheureusement, étant donné l'affluence d'invités, on pouvait pas proposer décemment quelque chose de correct. Enfin, moi, ça m'intéressait pas de faire venir toute une école pour qu'ils fassent une démonstration de 20 minutes sur un des deux jours, quoi. Donc on a préféré dire non, on le fait pas là, on le fera sur TGS Ohanami. Mais on a conservé quand même tout un pôle culturel avec des dégustations de thé, avec des associations qui vont parler d'idols japonaises, avec des personnes qui fabriquent des kimonos de façon traditionnelle. Enfin, on aura beaucoup de choses comme ça aussi, hein.
Et puis il faut dire aussi qu'on a surtout insisté sur le côté japonais jusqu'à présent, mais vous avez aussi un énorme pôle science-fiction, ouais, fantastique,
qui a avec un peu pris la part du... Alors, qui a pris la place du...
Voilà. Alors on va peut-être justement en venir sur le jeu vidéo en lui-même, puisque vous faites venir en fait des auteurs de jeux vidéo qui... je crois qu'il y a Eric Chani d'ailleurs.
Pas du tout,
je me suis planté.
C'est Michel Ancel.
C'est Michel Ancel, voilà. qui est tout aussi intéressant d'ailleurs, c'est pas n'importe qui.
Actuellement au Paris Games Week, je crois, j'ai vu ça passer sur internet ce matin, pour présenter le dernier jeu
Rayman Origins.
Voilà, Rayman Origins. Et merci Rafi.
Mais de rien.
J'avais oublié que t'étais là.
Ah, oui, j'étais là, je parle de temps en temps. Donc,
c'est, oui, j'ai pas de bloc-notes, comme vous pouvez le remarquer, c'est Rafi mon bloc-notes en fait. Donc,
et son agenda aussi, voilà, hein, pour le coup. Hein.
Oui.
Et donc, cette année, pour la première fois, on reçoit vraiment un créateur de jeu quand même qui est connu, reconnu. Hein. Enfin, il est co-designer des Lapins Crétins, le papa de Rayman, il a fait Beyond Good and Evil. Enfin, il a des choses à dire. Il vient avec un de ses collègues qui a fait toutes les musiques de ses plus grands titres. Je regarde parce qu'il me regarde bizarrement. Il va me dire non, pas toutes. J'ai trouvé le jeu qui ne fait pas.
Non, pas du tout. Voilà.
Et donc c'est Christophe Herral, qui fait aussi des compositions pour des courts-métrages ou des choses comme ça. Et après, voilà, cette année, on a pété les scores avec deux invités guests japonais.
Là, vous êtes du lourd, là.
Là, oui. A priori, on s'est pas fait que des amis, justement, en annonçant. Alors, Katsuhiro Arada, effectivement, c'est quelqu'un qu'on a déjà vu au Japan Expo, cette année. Il était sur le stand de Bandai Namco. Stand qui y aura au TGS, puisque l'éditeur se déplace.
Bien.
Mais surtout, celui qui a fait mal, c'est Yu Suzuki, qui est le créateur de la vidéo.
Alors déjà, on va rappeler qui est Katsuhiro Arada. C'est créateur donc de Namco, donc de Soul Calibur et de Tekken.
Mais c'est pas à peine de le rappeler, on est sur une émission geek.
Non, moi je suis pas du tout jeu vidéo.
Pas que. Ah, d'accord, pas pardon, excusez-moi, je me suis trompé.
Tu sais, du sport, il s'est équipé d'une PlayStation 2. Il y a même pas quelques mois, hein.
Voilà, et donc Yu Suzuki qui est donc le papa de la saga Shenmue.
De Shenmue, mais il a fait beaucoup d'autres choses. Il a créé des genres de jeux. C'est lui qui a créé Outrun, c'est lui qui a créé Daytona USA, Super Hang-On, Space Harrier. Enfin, il a fait vraiment...
En gros, quand vous allez dans une salle d'arcade et que vous avez des bagnoles avec des pédales et tout, c'est lui qui l'a inventé.
C'est lui.
Bah, voilà, surtout que c'est quelqu'un qui a fait progresser aussi bien le côté hardware pour ce qu'il voulait au niveau rendu. C'était une démarche qui, à l'époque, était vraiment la démarche plus proche du développeur qui pouvait encore bricoler des trucs.
C'était un peu le Steve Jobs de chez Sega.
Wozniak. Plutôt le Wozniak.
Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est pas mort, c'est ça?
Non, parce que Wozniak avait sur Pong, était plus technique, et sur Pong, il avait fait justement les optimisations de puces et tout ça, il était plus sur ce côté-là.
Bon, d'accord. Donc,
Jobs était payé pour, mais il savait pas le faire. Là.
Oui, mais lui, c'était plus marketing.
Ouais, mais ça, c'est la French, c'est la joke.
Mais
voilà,
tout ça pour dire qu'il se déplace très rarement en Europe.
Oui, oui, ça c'est.
La dernière fois qu'il est apparu quelque part, c'était à Las Vegas, sur un salon de jeux vidéo, et ça avait fait un petit buzz. Et donc là, en fait, pour tout vous dire, au départ, on ne pensait pas l'avoir. Voilà. Parce que quand on invite nos guests japonais, en fait, on passe par une société qui s'appelle Shibuya International. On a envoyé plusieurs invitations. Bien sûr, Yu Suzuki a été le premier à être contacté. Et pas de réponse. Donc au bout d'un mois, on est passé à Katsuhiro Arada, qui, au bout d'une semaine, nous a dit « Oui, oui, moi c'est bon, je serai là, je viens. » Et un mois après, à peu près, on reçoit un mail de la secrétaire de Monsieur Suzuki qui nous dit « C'est bon, écoutez, il est OK, il vient. »
Aïe.
Donc on n'avait pas prévu de faire venir un deuxième invité, mais bon, là on s'est regardé, on a dit OK, on s'est regardé tous autour d'une table, on a dit si qui est-ce qui va dire non, qui c'est qui va appeler pour dire non, on le prend pas, on ne vient pas ce monsieur. Donc on s'est dit bon ben voilà, donc on a invité avec, et c'est une immense joie, un honneur.
Et qui c'est qui a annoncé à Katsuhiro Arada que c'était le choix numéro 2?
Alors non, mais enfin,
il le fera jamais.
Katsuhiro Arada, c'est quelqu'un qui est vraiment très très cool. Hein. Vraiment, c'est pas du tout un mec qui se la pète ou.
D'ailleurs,
il est très bon dans ce qu'il fait.
Il y a des vidéos sur le net pour promouvoir le jeu Capcom versus Namco versus Tekken, et où il y a Arada et le créateur de Street Fighter qui se font des bastons en tenue super cheap. voilà, je crois qu'il est déguisé en Paul Phoenix, ou je sais plus comment il est déguisé, mais.
Mais il est joueur. Très franchement.
Oui, ils font partie de cette génération justement de créateurs d'entreprise ou de chefs d'entreprise au Japon qui d'abord ont une parole absolument libre. Qui savent qu'ils sont redevables vis-à-vis d'autres entreprises et tout le reste, mais qui apparemment en interview sont franchement accessibles et n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent, ce qui est assez étonnant.
Ah oui, non, mais c'est des gens qui, à partir du moment où ils sont arrivés à un tel niveau, c'est un peu comme Michel Ancel chez Ubisoft, hein, c'est des gens qui ont rien à prouver à personne, donc quand ils parlent, on les écoute, c'est obligé, quoi, voilà.
Alors, quand on fait venir ce genre de personnes, je suppose que ça peut aller bien au-delà de la séance de dédicace.
Oui.
Je pense qu'il y aura des rencontres, des rendez-vous. Est-ce que vous avez pensé justement à vous dire, ben, on réserve une journée avant le vendredi pour des rencontres professionnelles ou ce genre de choses?
Alors, non, enfin, cette année, c'est pas possible de toute façon, puisque nous, le salon était calé au niveau des dates avant d'inviter...
Oui, mais par exemple, dans un amphithéâtre, dans une école ou un truc comme ça, où ça pourrait intéresser justement ceux en formation ou des pros de ce côté-là.
Voilà, mais disons que ils vont rencontrer la presse, hein, y a pas de problème là-dessus pour discuter. S'il y a des gens qui se présentent et qui ont des choses intéressantes à leur proposer, c'est pas des gens qui vont dire non, on parle pas, on n'écoute pas. Enfin, vraiment, ils sont là vraiment pour rencontrer leur public français. Mais s'il y a des gens qui veulent leur proposer des choses concrètes, voilà, ils seront accessibles, quoi, en fait. Hein. Alors pas bien sûr, salut Katsuhiro, j'ai un truc à te proposer, ou salut Yu Suzuki, je vais te proposer un truc. Mais ils seront accompagnés d'un staff français qui sera là pour faire, on va dire, un premier tri.
Bien
et en
évidemment.
Tout cas pour prendre en tout cas toutes les propositions qui leur seront proposées. C'est joli, sa proposition proposée.
Pas mal.
c'est un peu du Phil Collins. Wisdom to be wise. non, mais enfin, voilà, et de toute façon, ils seront recontactés, on prendra tous les contacts de toutes les personnes pour que...
Alors, vous avez eu un stand Microsoft relativement tôt, il y a eu Nintendo qui est une présence assez importante, pas directe, mais relativement importante. Or, maintenant, ce que l'on voit de plus en plus, c'est que le jeu vidéo s'axe de plus en plus sur la mobilité, notamment par les smartphones. Est-ce que, de ce côté-là, comment... peut-on encore mettre en scène, je veux dire, justement, ce genre de jeu, alors que c'est beaucoup moins spectaculaire que sur un écran de télévision?
C'est pas la même utilisation. Je pense que, de toute façon, les joueurs sur iPhone disaient pas « Tiens, avant j'avais ma PS3, je joue plus à ma PS3, maintenant je vais jouer qu'à Angry Birds sur mon iPhone. » Même si Angry Birds est très bien, moi je l'ai fini, tout ça. C'est un truc complémentaire, on joue pas... pareil, on joue pas dans les mêmes endroits, c'est autre chose, quoi, en fait. Donc c'est bien que ça existe, parce que ça démocratise le jeu vidéo, de toute façon. Avoir des jeux qu'on paye moins de 5€, c'est...
Oui, et puis des jeux plus casual, où tu vas pas passer des heures.
T'es en train de casser la frontière, que tu es en train de dire que des hardcore gamers, ça donne à des jeux casual.
Oui.
C'est pas vrai.
Mais si.
Mais bon. Si, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'ils mangent quand même le marché. C'est-à-dire qu'en gros, le hardcore gamer, avant de jouer, voilà, un joueur de Battlefield ou de Call of Duty, il joue à Battlefield ou Call of Duty. Voilà, c'est marqué sur son CV. Et, même s'il est après 4 dans une banque, c'est dans les loisirs, il est marqué joueur de Battlefield. mais c'est vrai que c'est pas pour ça qu'il maintenant il jouera pas soit avec sur son téléphone à quelque chose à Call of Duty sur son voilà. La version pourrie, ouais, juste pour dire, ah, mais c'est mieux sur la Play 3, ou sur la Xbox, ou sur.
D'accord. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez pensé à mettre en place un système d'affrontement par bande d'arcane interposée avec les créateurs des jeux sur le salon ou pas?
Alors, justement, Yu Suzuki, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais Yu Suzuki, il a aussi créé un autre jeu. Il a créé Virtua Fighter.
Ah, c'est vrai.
Le papa de Virtua Fighter.
C'est vrai. Le premier jeu de fight en 3D vient.
Il était moche.
Ah, oui.
D'accord.
Oui.
Mais.
Oui.
Il était technique, quoi. Enfin, Virtua Fighter,
oui, c'est vrai
assez,
que
voilà. Enfin, vraiment, c'est un jeu quand même assez technique. Et on ne désespère pas. C'est un cours de négociation de faire affronter Katsuhiro Arada contre Yu Suzuki, chacun sur un de leurs jeux. C'est-à-dire sur Virtua Fighter forcément pour Yu Suzuki et Soul Calibur ou
Tekken.
Ou Tekken ou peut-être le Street Fighter versus
ça va être assez fun voilà. Dans la salle, je sens.
Donc voilà, donc on sait pas quand est-ce que ça va être placé, donc mais c'est quelque chose ce qui nous est venu à l'idée de suite quand on a vu les deux noms, on a dit il faut qu'il fasse quelque chose. Et de toute façon, il y a une table ronde sur les jeux vidéo qui est organisée le dimanche en amphithéâtre. Où ils vont parler des jeux vidéo d'avant, d'aujourd'hui et de demain, en fait. Et cette table ronde, il y aura Michel Ancel, il y aura Katsuhiro Arada, il y aura Yu Suzuki, il y aura Christophe Herral. Voilà, ça va être, je pense, quelque chose d'assez intéressant de voir des gens qui travaillent sur des types de jeux qui sont un peu différents, mais de voir quelles sont leurs idées, leur avis sur ce qui s'est passé avant, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passera demain, quoi, en fait.
Mais là, vous êtes en train de griller toutes vos cartouches, là. Il vous restera plus rien pour l'année prochaine, hein. Avec tous les invités.
Alors, je peux vous annoncer déjà des choses pour l'année prochaine, en exclusivité mondiale. L'année prochaine, nous aurons toujours deux invités japonais, sur les prochaines TGS. Mais, pour la première fois, on va accueillir un mangaka, ou quelqu'un proche du manga, c'est-à-dire que, ça sera peut-être quelqu'un de proche de l'animation plutôt. Enfin, voilà, il y aura quelqu'un vraiment dédié aux jeux vidéo, un grand nom du jeu vidéo. Mais quand je dis un grand nom, c'est un grand nom. Maintenant, vous savez que.
Ouais, maintenant on sait. Ouais,
voilà,
on est d'accord.
Un manga, je peux vous dire que même les gens qui lisent trois, qui ont vu trois mangas, qui en lisent pas ou qui connaissent ça de loin, ben ils vont se dire tiens, lui, ça me dit quelque chose quand même, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est un cours.
C'est pas signé, mais.
C'est pas signé, mais je peux vous dire qu'il y aura un grand mangaka très connu, très très connu. Et un créateur de jeux vidéo ou un patron d'entreprise très connu, voilà.
Ça va être intéressant.
Très bien. On rappelle que vous êtes là aussi pour annoncer le TGS Party.
Oui.
Et
ah
avant
oui, c'est vrai.
Avant de passer aux autres invités que vous allez nous présenter,
et qu'il va falloir trouver une question.
On va parler un peu du TGS Party. Donc on rappelle aux auditeurs qu'il y a des places à gagner pour le TGS Party. Vous pouvez appeler à la radio, c'est du sport qui prendra vos coordonnées. Donc c'est au 0561.
Il vous posera une question. Je sais pas. Ah ben tiens, tu m'as l'air très calé en ce moment sur les Pokémon.
Moi j'ai déjà une question bien pourrie.
Vous pouvez utiliser la Wikipédia et d'ailleurs je fais salutation à Adrien Alix qui nous écoute en ce moment.
Alors le numéro de téléphone pour nous appeler c'est le 05 61 580 580. Vous pouvez appeler, il y a nos deux invités Rafi et Sébastien Laurent qui pourquoi pas s'ils ont des questions à vous poser pour vous faire gagner parce que c'est pas gratuit non plus. Hein. Donc il faut que vous étaliez votre culture geek. Donc voilà. N'hésitez pas à appeler.
Voilà et voir si vous avez une question à leur poser, ce sera peut-être c'est justement l'occasion. Voilà. Alors moi j'en avais une.
Oula.
Elle est difficile.
Quand
hein, Rafi,
commence
Rafi
à passer la langue devant la lèvre là, c'est que...
Rafi et Seb, attention. Donc je rappelle que nous avons au sein des services de notre cher Premier ministre, qu'il soit de droite ou de gauche, on s'en fiche, une commission interministérielle générale de terminologie et de néologie informatique, et qu'ils ont encore voulu jouer les intéressants. Alors vous préférez le terme de cosplay ou de costumade?
C'est le nouveau. C'est une vraie question.
C'est la nouvelle traduction officielle.
Costumade.
Ouais. Et qui en plus est un terme québécois d'ailleurs. Il me semble.
Il faut qu'on change tout le site internet d'ailleurs.
Ouais. On dirait rigolade. Costumade.
Costumade.
Oui, ça fait un peu.
Ça me fait penser un peu à riboulade. Je sais pas si tu connais. C'était un plat qui était vendu en boîte. Avec du riz et des boulettes de viande, un peu, tu vois.
Riboulade.
Alors, notez bien la recette du plat, parce que vous la reposez.
C'est au micro-ondes.
Oui, oui, c'est un truc, enfin, moi, j'en ai vu qu'une seule fois, je pense que les gens sont morts depuis. mais voilà, quoi, en fait, c'est, oh, non, mais non, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, vouloir changer des, l'appellation,
Et dans ce cas-là, puisque pour les personnes qui font de la costumade, ils proposent deux termes, costumadier ou costumédien.
Costumédien. Oui, voilà.
Ça, c'est...
On dirait le costumédien, je pense que c'est une race de Star Trek, déjà. Je pense que j'ai dû voir ça dans un épisode, quelque part. Ça me dit quelque chose.
Non, tu confonds avec les Cardassiens.
Les Cardassiens, selon les versions de Star Trek, on pouvait tomber sur... la même race, mais qui était dite de deux noms, deux façons différentes. Donc c'était parce qu'on est d'accord, il y a les Romuliens, les Romulanais.
Mais selon que
et les Romains,
c'était
non.
L'une des
là c'est trop vieux pour moi là.
L'une des races ethniques. Oui,
pour le coup. Voilà exactement. Ouais, un peu.
Excusez-moi. Si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, amis Trekkies, vous pouvez appeler aussi. Hein.
Alors bien évidemment, je ne pose pas la question à Rafi parce que dès qu'on parle de ça, vous verrez avec sa langue, ce sera un petit peu difficile. Donc à Seb. On connaît ton franc-parler, donc on veut un avis franc. Le grand TGS en novembre, n'est-ce pas un petit peu sadique pour les cosplayers qui manquent d'idées et qui donc y vont dénuder?
À la grande joie des chargés de sécurité, enfin du chargé de sécurité et des vigiles, tout se passe bien, dans le meilleur des mondes. Non, mais enfin, tout s'est toujours bien passé. Donc c'est vrai qu'après, moi je les plains quand je les vois arriver des fois dans le froid, faire la queue.
Ouais, l'année dernière avec la neige.
Voilà, ouais. Donc bon.
Oui, pour le coup, c'était clair.
C'est compliqué. Surtout que c'est quand même un peu, c'est le choc thermique quand on arrive. Elles ont pas, en plus avec les armures à pointe qu'elles ont, elles peuvent pas mettre de manteau par dessus. Alors c'est parfois compliqué, oui.
Mais c'est vrai que c'est vraiment, c'est choc thermique. J'aime bien le terme parce que c'est un peu ça, quoi. On est quand même le seul salon au mois de novembre on est obligé de mettre la climatisation à Diagora parce que normalement ils sont en mode de chauffage ou de clim, en fait, pour nous, ils mettent la clim, hein. C'est pas compliqué.
C'est bien, on est dans Saint Seiya, on passe du zéro absolu jusqu'à la cosmo-énergie à l'intérieur.
Alors, je vous conseille, si vous avez très froid, vous allez dans la salle No Life, avec tous les auteurs en dédicace et tous les animateurs de la chaîne. Et du coup, vous allez voir, là-dedans, il doit faire un sauna. Hein. Donc, généralement, je sais que l'année dernière, ils nous ont dit qu'ils envoyaient de l'air frais à 5 degrés dans la salle pour pouvoir la rafraîchir, et ça ne marchait pas, hein, rassurez-vous.
C'est tout de même très très chaud. Ouais.
Donc, c'est ouch. Eh ben, heureusement, finalement, tu vois qu'il n'y a pas de coin hentai, hein, sinon je te dis pas comme la température serait montée.
C'est bien, il faudrait compter combien on prononce le mot hentai aujourd'hui, alors qu'il n'y en a pas du tout.
C'est ça. Exactement, il n'y a pas du tout d'hentai, je tiens à le dire. Voilà, non, mais c'est clair.
Non, là-dessus, on est clair. Alors à part cela, bon, on a posé, on a demandé s'il y avait des questions qui seraient, enfin quand on a su hier, on a demandé à nos audilecteurs sur le net s'ils pouvaient nous poser quelques questions. Donc une question qui n'a pas été signée. Est-ce que vous avez prévu des tarifs réduits pour les candidats à la présidence de la République, comme au salon de l'agriculture?
Oui, parce que forcément, ils vont venir, forcément.
Pas pour les présidents actuels.
Voilà. Bon, moi, c'est dit.
Non, mais enfin voilà, enfin, on reçoit des personnalités locales influentes.
Oui, ça, je me souviens qu'il y a eu un maire qui était passé.
De la communauté d'agglomération, il y a pas mal de maires de villes autour de la Belge qui se déplacent. Et on a des gens de la municipalité de Toulouse qui viennent pour remettre généralement un prix d'honneur à nos invités. Voilà. Mais non. Après, sinon, j'aime pas cette question.
Mais est-ce que le fait justement qu'il y ait des hommes politiques qui viennent, est-ce que toi tu trouves ça d'une manière cynique, ou est-ce que pour toi c'est une vraie reconnaissance?
Non. Enfin, pour moi, c'est pas une reconnaissance. Moi, je suis content qu'ils viennent pour une chose. C'est qu'ils se rendent compte de la population, en fait, qui vient. On est quand même sur un événement qui l'année dernière a accueilli près de 30 000 personnes, où il n'y a pas eu un incident, où les gens sont disciplinés. Oui. Pour moi, la culture geek, c'est une culture saine quand même. Même si on peut dire mais c'est des gens qui sont cachés dans leur ordinateur, derrière leur console, qui lisent des mangas dans leur coin.
Et qui sont boutonneux et qui n'ont même pas leur carte de la poil.
On se dit, ils veulent pas rencontrer les gens, ils sont antisociaux alors qu'ils passent leur journée sur Facebook, n'est-ce pas, Rafi?
Oui, c'est vrai.
Mais il n'est pas boutonneux, Rafi, je te le dis. Hein, il est barbu un peu, mais pas boutonneux.
Non, mais c'est un bel Hidalgo. Je laisse déboutonner. Normalement, Stéphane devait faire des images. Normalement, aujourd'hui, il n'a pas pu pu venir, puisque lui, par contre, il est grippé, mais je peux vous dire que non, les filles, on vous donnera le numéro de téléphone si vous appelez. Et ce qui fait qu'on n'aurait même pas de questions.
Le numéro de téléphone de votre fille, c'est le
0. Non, ne donnez pas mon numéro de téléphone, s'il vous plaît.
On peut donner celui de la radio pour rappeler qu'il y a des
voilà, vous pouvez poser des questions à Rafi si vous voulez, qui n'ont rien à voir avec le TGS, donc c'est le 0561 580 580.
On marque une petite pause, il est 12h30 sur Radio FMR et je rappelle que c'est les 30 ans de Radio FMR.
FMR fête ses 30 ans au Bikini le samedi 5 novembre. Du ukulélé, du rock, du punk, de l'électro, de la jungle, de la drum and bass, 10 groupes, 10 euros. Ouverture des portes un peu avant 19h avec par ordre d'apparition, les Lélé, Wild Woman and the Savages, Charlie Fiasco. Légitime défense également, premier concert de reformation, Wang for Peace, La Phase, The Esser et Denshu Kozo. Lipitron, DJ Lady et MC Two-Tone. Et le lutin. Le samedi 5 novembre au Bikini, 10 euros, réservation sur le site du Bikini. FMR fête ses 30 ans. Le 5 novembre, Bikini, 10 groupes, 10 euros.
FMR, 30 ans ferme, toujours libre. FMR.
Et nous revoici dans le suppléant week-end, donc avec Rafi et Sébastien Laurent du TGS. Ça va Rafi?
Ah oui, toujours.
Cool, tranquille. Non, parce que là, franchement, Thomas lui a fait faire là, un petit shooting photo pendant la pub et tout.
Magnifique.
Oui, ici, il y a
c'est
pas
pour le calendrier de l'émission.
Aussi chaud, ouais, exactement.
Mais il a fait, je sais pas s'il a fait un Rafi, là, comment ça?
Un petit peu là, j'avoue que j'ai pas mangé ce matin en plus, donc.
Vous êtes avant tout aussi là pour parler bien sûr du Toulouse Game Show, mais aussi du TGS Party, donc qui aura lieu samedi prochain. Et donc qu'est-ce qu'il y a dans ce TGS Party qu'on peut retrouver aussi au Toulouse Game Show? Quelles sont les spécificités de cette
Allez Rafi, on va te laisser parler.
Allez,
un peu.
Soyons fous. Alors les spécificités.
Oh, d'accord. Pardon. Donc je vais reprendre.
Du TGS Party. Tout simplement, en fait, c'est une journée animation, donc il y aura pas de stands commerciaux à proprement parler. Tu m'arrêtes si je me trompe.
Alors, hein. En fait, il y en aura un.
Ah, imaginaire, c'est ça?
Imaginaire. Voilà. Et il y aura par amitié. On lui vend pas le stand, hein, je tiens à le dire. On ne fait pas de l'argent dessus. Mais c'est vrai que les gens aiment bien des fois repartir avec un petit souvenir. Donc, il va venir sur une table avec quelques produits. Puis, plus pour le.
Ouais, et puis il a des goodies de qualité. Donc,
ouais, exactement.
Voilà, exactement. Et donc, du coup, voilà. C'est plus une journée animation où là, il y aura du jeu en libre service. Il y aura notamment DJ Hero, Just Dance 3. Puisque Seb l'a acheté sur Kinect.
Oui, mais il sera pas sur Kinect, il sera sur Wii.
Ah, sur Wii. Bon, voilà. Du coup, on pourra jouer à Just Dance 3. On pourra jouer à plein de jeux musicaux, notamment DDR.
DJ Hero.
Parapara, oui, DJ Hero, je l'avais dit tout à l'heure.
Rock Band. SingStar.
Enfin, tout plein de jeux de musicaux, donc en libre service. Il y aura également ensuite des guests, notamment Marcus.
Ah, d'accord.
Voilà, le joueur du grenier.
Lord Wellington.
Non.
Ah, il a même pas le chat, bon d'accord.
Peut-être oui. Marcus aura le chat à la gorge, mais je sais pas si ce sera Lord Wellington. Je ne sais pas.
Donc voilà, donc du coup, il y aura Marcus, le joueur du grenier également, et Sparadra de l'équipe de Noob.
Voilà.
D'accord. Exactement. Alors justement, une question que l'on m'a posée sur un réseau social. Marcus, Noob, le joueur du genier et compagnie.
Le joueur du genier, pas mal.
Une faute de frappe. Marcus Noob, le joueur du grenier et compagnie, est-ce que tous ils sont gérables?
En même temps. Oui.
Ils sont très sympas en plus.
Non, c'est clair. Non, c'est pas des. Enfin, ils ont des grains de gueule. Ouais, ça, c'est on peut y aller. Hein, et c'est des gens qui n'ont pas la langue dans leur poche, mais ils sont cool. Ils sont plutôt cool, quoi. Ah, donc, oui. Puis ça leur fait plaisir de venir sur un événement où il va pas y avoir 30 000 personnes. En tout cas, ça va être vraiment beaucoup plus,
plus intimiste.
Voilà, plus intimiste, tranquille. Ils vont vraiment jouer avec les gens. Enfin, ils vont pas rester un stand de dédicace comme au TGS derrière une table à faire que ça, quoi. Enfin, ils vont vraiment en profiter. Enfin,
Marcus, lui, quand tu lui fais faire ce mouvement, c'est plutôt le tartinage.
De Nutella. Oui, par pitié, arrêtez le pauvre, hein.
Non, parce que ça. C'est plein d'huile de palme.
Sa femme voudrait qu'elle a demandé quelque chose pour son anniversaire. C'est qu'elle a dit j'aimerais bien avoir un homme svelte, nickel, musclé et tout. Donc
offrez-lui les pots de protéines.
Offrez-lui un ramen de muscles. Je ne sais pas s'il faut du Nutella light. Je ne sais pas.
Non, je pense pas. C'est pas possible.
On offrait lui un ramen.
Noisette, huile de palme light. J'ai un peu du mal à y croire.
Sinon, rassurez-nous, il y aura que des jeux musicaux ou...
Non, non, voilà.
Non, 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 bien sûr. On a dit cela parce que c'est ceux que vous...
qui font en avant. C'est casual, ouais.
Voilà, mais sinon, non, non, il y aura d'autres jeux. Alors là, par contre, je laisserai Seb, parce que c'est lui qui s'occupe de toute la planification des jeux.
En fait, il y aura plein d'autres choses, mais il y aura déjà un pôle rétro gaming avec des anciennes consoles, parce que le joueur du grenier, il est fan. Oui. C'est un fan absolu.
Oh, c'est du Sega qu'il vous faut, ouais, pour lui.
Oui, oui, mais après. Bien sûr. On va lui mettre un petit Tintin, là, ça va être sympa. Un petit Tintin au Tibet, là, ça va être génial, ça.
Oui, surtout qu'il a adoré, ouais.
Ouais, ouais. Ouais. Ou un Dark Castle aussi. J'avais vu un Dark Castle qui était assez. Oui. Il y aura du Mario Kart aussi, parce que Sparadra et Marcus, ils sont fans absolus de Mario Kart. On aura un pôle avec des consoles next-gen aussi, avec des jeux plus classiques. Hein. On va même mettre du FIFA, quoi.
Pour la première fois, hein. Pour la première fois à TGS, il y aura du FIFA.
Mais il y aura des jeux plus classiques, jeux de caisse.
Si vous faites venir les joueurs du TFC, les gens auront peut-être une chance de gagner. Hein.
Oui, d'accord.
Bon.
Franchement, moi j'aimerais bien qu'il y ait un joueur du TFC qui vienne. Franchement, ça serait sympa.
Oui, ce serait fun. Au moins, qu'ils montrent qu'ils ont de l'humour et qu'ils savent et qu'ils ont autre chose que les muscles du pied.
Bah oui, ils ont de l'humour.
Mais généralement, on est très méchants avec les très bons joueurs sur des jeux de foot sur PES ou FIFA, généralement.
Ouais.
Parce que c'est des gamers aussi, donc bon.
Exactement. Pour la plupart, oui.
Ouais. Non, mais c'est vrai que ça attire vraiment. Moi, je suis partisan de dire que c'est une culture aussi, quoi. Enfin, je veux dire, le jeu vidéo, on peut pas se foutre de la gueule d'un jeu comme PES ou FIFA, vu le nombre qu'ils en vendent, quoi. Je veux dire, c'est un truc hallucinant, hein. C'est quand même le premier produit culturel. Ça passe devant Harry Potter, je crois, en termes de produits cinéma, multimédia. Enfin, c'est un truc quand même assez...
En termes d'investissement, en termes de chiffre d'affaires, effectivement, c'est absolument énorme. On a un peu du mal à y croire, hein. Même en étant dans le domaine, on se dit, mais comment ça se fait que ça ait aussi peu de retentissement?
J'ai vu un truc hier, je sais pas si vous avez vu un reportage à la télé sur M6 où il parlait,
sur une chaîne.
Oh, allez, sur M6 TF1, alors qu'est-ce qu'on va dire? Arte, Game One,
Arte encore, on...
Non, mais en tout cas, il parlait justement du, Je crois que c'est Battlefield.
Je ne sais pas, je l'ai pas vu.
Le précédent épisode, ou le Call of Duty, peut-être un des deux. Enfin, un des deux. Qui avait, sur sa première semaine, dépassé le chiffre d'affaires total de ce qu'a rapporté Bienvenue chez les Ch'tis. Alors, c'est pour vous donner un truc quand même, parce que Bienvenue chez les Ch'tis.
Oh. C'est le chiffre d'affaires pour la France ou pour le monde? C'est parce que tu comparais justement
priori,
ce jeu au monde.
Il parlait du chiffre. Non, France. Hein. Wow. A priori, donc on se dit quand même qu'il y a quand même pas mal de gamers, quoi, quand même. Enfin, pour que ça dépasse.
Ah ouais.
Quand même. Hein. Enfin, ils en parlaient hier. Hein. Ben, tout ça pour dire que, parce que c'est n'importe quoi, il me coupe quand je parle, lui.
Pardon, désolé.
C'est n'importe quoi, cette radio.
Non, c'est une question d'habitude.
Je vais mettre la stéréo, là, pour que vous puissiez arriver à suivre les conversations.
Au TGS Party, il y aura aussi des PC en 3D qui sont gracieusement prêtés par le Tokyo Café. Et il y aura la bibliothèque de manga consultation libre avec des centaines de mangas. Vous pouvez vous poser dans des canapés, tranquille. Voilà, avec une bonne ambiance.
Donc c'est un après-midi et il y aura aussi des concours de cosplay ou pas?
Alors oui, parce qu'il y a une scène en fait au Studio One, on va occuper la scène avec du karaoké, du cosplay, il y aura des mini-jeux sur
la
scène
costumade.
De costumade, exactement.
Alors par contre, juste pour info, ce sera pas un concours.
Non, ça sera un défilé, voilà.
Piperade, tapenade, costumade.
C'est ça.
Non, c'est je pourrais pas.
Quel est le prochain cosplay?
Il y a du sport qui est en train de dire bon, c'est
non,
mais bon.
Non, ça lui donne le fun peut-être. Tapenade.
Alors on parlait tout à l'heure de jeux musicaux. Il y a aussi Coucou Circus qui vient. On rappelle que Coucou Circus a eu des démêlés avec la SACEM qui tout d'un coup
de s'arranger.
Alors où c'est que ça en était? Parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, le gros problème qu'avait Coucou Circus, c'est qu'ils avaient convenu d'une amende qu'ils devaient payer rétroactivement et tout le reste, qu'ils avaient réuni l'argent, mais qu'il n'arrivait pas à la payer.
Parce que oui, c'est ça.
Parce qu'il n'y avait personne en face.
En gros, il a eu un premier rendez-vous où on lui a demandé... on lui a fait faire une estimation de ce que ça devait payer comme amende de retard par rapport à ce que le site avait généré comme profit. Sachant que le site ne génère pas énormément de profit une fois qu'on a enlevé tous les coûts de programmation, de maintenance. Enfin voilà. Donc c'est une somme quand même qui approchait les 10 000 euros quand même. Hein. Enfin, c'est une blague comme ça. Donc il a mis en place un système d'abonnement sur le site, pas très très cher, c'est 10 ou 15 euros pour une année en utilisation totale du site. Enfin bon, c'est un truc quand même qui est vraiment sympa. Au jour d'aujourd'hui, il a réuni la somme. Il a réuni la somme, mais personne à la SACEM ne sait trop quoi lui dire, savoir comment on fait pour payer. Donc, bloqué la somme d'argent sur un compte
séquestre. Ouais.
Il garde également un pourcentage des abonnements maintenant, puisque c'est ce qui a été mis a priori en accord avec la SACEM sur la discussion qu'ils avaient eue ensemble. Un pourcentage de l'abonnement qui va directement à la SACEM. Et ensuite, c'est en attente.
C'est hallucinant.
C'est hallucinant, oui, c'est clair.
Enfin,
nous, on l'a toujours soutenu. Je sais qu'il y a des festivals qui ont annulé sa participation.
On veut pas d'emmerde.
Donc, alors, des noms.
Sébastien Valence, de toute façon.
Oui, mais pas de problème. vous voulez faire des amis avec qui? Dites-moi.
À ce stade, tu sais.
Y a des festivals qui n'ont pas voulu maintenir leur présence parce qu'ils ont eu peur de représailles. À partir du moment où ils sont en discussion avec la SACEM, moi, j'estime que. Voilà, ça se fait. Ils sont toujours venus, ils viendront. Et puis Xavier nous fait l'honneur chaque fois c'est Monsieur Coucou Circus, quoi, en fait. C'est lui qui a
fait ça et qui a fait ça intégralement sur son temps libre.
Voilà.
Et qui,
après, il a été aidé par d'autres personnes qui ont aidé à mettre en place des choses. Mais c'est quand même lui qui s'est démis là-dessus. Et je sais qu'il a eu déjà un gros coup dur quand il est passé en payant parce qu'il a reçu des mails d'insultes. Vraiment des gens qui ont dit c'est une honte, alors que. Déjà, ils n'avaient pas l'intégralité du problème. Ils ne voyaient pas toute l'intégralité du problème. Donc, ça a été dur pour lui. Et il a rebondi. Et puis, il repart sur les festivals. Il refera plein d'animations. Il sera en salle de quiz au TGS. Il sera sur scène au TGS. Il fera même un truc spécial. D'ailleurs, un truc que je peux vous annoncer qui n'a pas été annoncé sur le site. Enfin, en tout cas, pas exhaustivement. Sur son créneau sur scène du samedi. Il va recevoir et son créneau scène s'appelle Coucou Circus, la fête au village. Donc c'est quand même un truc extraordinaire.
Il va recevoir les musclés quand même.
Alors presque. Mais dites donc.
Presque.
Donc il y aura Bernard Minet qui aura été en concert le vendredi soir à la soirée de couverture.
Au normal.
Qui va revenir sur scène, chanter quelques petits trucs. Mais surtout Bernard Minet sera en présence d'Eric des musclés.
Oh là là.
Qui va venir.
Les moustaches.
Il ne l'a plus, non, mais en fait, il habite à Millau, et Bernard lui a proposé de venir, donc du coup, il a accepté, donc il va venir sur les trois jours, enfin les deux jours du salon, parce qu'il est en concert le vendredi, Eric.
Eric, il jouait quel instrument, lui, déjà?
Je crois que c'est guitare.
Il était guitariste, je crois, non? Ou bassiste, je sais plus.
Je ne sais plus.
En tout cas, si vous pouvez nous aider pour décrypter.
C'est la question pour gagner des places au TGS Party.
Appelez au 0561 580 580. Vous pouvez nous.
Mais après, pour vérifier, vous pouvez prendre la réponse. Enfin, je sais pas.
Bon, on fait confiance.
Wiki, et puis voilà.
Mais il faut savoir qu'Eric, quand même, il a travaillé avec Johnny Hallyday. C'est un tout mal. J'ai lu le Wikipédia. Mais alors, je vous dis, le Wikipédia est énorme. Attention. Alors, je vois que. Voilà, n'est-ce pas? C'est très flou quand je l'ai lu, mais en tout cas, je sais qu'il a fait. Les musclés à la base avaient des compétences artistiques vraiment poussées. Après, ils ont fait ce qu'on leur a demandé.
Ils
ont fait ce qu'ils ont fait, ce qu'on leur a demandé. Et puis après, ils ont fait des choses pour se faire plaisir et pour déconner, quoi. En fait, c'est comme au jour d'aujourd'hui, les gens qui se foutent de la gueule de Patrick Sébastien. Eh bien, moi je dis qu'il faut le faire quand même.
Bien parce qu'ils ont mis en avant Il Gueugue. Et rien que pour ça, on peut leur en être reconnaissant à vie, quoi.
Toute la génération, mais je me souviens, les traumatismes d'école quand t'es gamin, que t'arrives dans les cours de lycée et que t'arrives et tu dis ah putain j'ai regardé le Club Dorothée et tout ça, j'ai vu Salut les musclés, j'ai vu Goldorak et tout le monde dit oh t'es trop nul, t'as regardé les Dorothées avec les musclés et tout ça. Alors que tout le monde le regardait, on est d'accord, hein.
Oui. Mais là-dessus, on peut pas.
Voilà, et en douce, après, ils te disent, il s'est passé quoi hier en DBZ alors?
C'est ça. Non, mais c'est tellement mieux aujourd'hui de regarder, c'est plus belle la vie ou les feux de l'amour.
Dora l'exploratrice aussi.
On rappelle donc que vous écoutez Radio FMR et qu'on est en train de balancer sur notre propre vie, je veux dire, dans le supplément week-end avec Seb et Rafi pour le Toulouse Game Show. Donc plus d'informations sur la journée Toulouse Game Show qui aura lieu la semaine prochaine sur le site toulouse-game-show.fr ainsi que donc sur le grand TGS qui aura lieu le 26 et le 27 novembre. Egora à Toulouse, la Belge. Et si vous voulez gagner des places, donc, il faut nous dire. Mais qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur musclé?
Voilà. C'est pas trop dur.
C'est pas trop dur.
Alors, je tiens à dire que la réponse, le con, ça ne compte pas.
Voilà, tout à fait. Parmi donc les invités qui viennent,
oui, parce que du sport est en train de trépigner.
Du sport est en train de trépigner.
Non, pas du tout. J'attends les appels au 580 que 05 devant quoi.
C'est notre charmante standardiste
pour la TGS.
Bonjour. Voilà. Et nous et oui voilà, donc on a il y a deux invités que dont nous n'avons pas parlé qui concernent plus accessoirement la discipline du sport, à savoir les séries télé. Et là, vous avez deux acteurs de séries télé, et pas des moindres, donc qui sont Ernie Hudson et William B. Davis.
Ah bon?
Mais ta gueule, on était dans le complot de fumistes, là.
Oui, non, mais... Alors, oui, du sport va nous en dire quelque chose, je pense, a priori.
Bah, ouais,
dis à nos invités ce qu'ils vont recevoir en novembre.
Nous avons un appel. Et bon bah il veut pas alors bon bah on va attaquer.
Non allez. Mais vas-y du sport.
Ouais. Ernie Hudson et tout. Alors c'est bien parce que bon bah généralement quand on voit les acteurs à la télé ou au cinéma, on se dit ouais il a l'air maousse celui-là, j'ai même pas me retrouver en face de lui et tout. Ernie Hudson ça va, hein, 1m83 donc ça reste dans le raisonnable, il y a pas de problème et tout. Acteur américain né dans le Michigan. Alors Ernie, bien entendu, c'est le diminutif
Ernest.
De Ernest Lee Hudson, né en 45. Et bon bah, écoute, il est pas si vieux que ça quand même. Hein.
Ah non, c'est
bah,
pas.
Non, ça va quoi. Alors c'est un type qui a commencé quand même fin des années 70 et bien entendu sa carrière, il l'a pas commencé au cinéma, mais plutôt dans les séries télé. Mais par contre. Vous avez pu le voir dans les séries télé qui sont passées. Là, j'ai retenu surtout les séries télé qu'on a pu voir en France, parce qu'il y a également des séries télé qui n'ont pas passé l'Atlantique. L'homme de l'Atlantide, rappelez-vous, Patrick Duffy en 1977. Attention, l'île fantastique. Baba Black Sheep, c'est-à-dire les têtes brûlées. Hulk, la série, hein, aussi. Arnold et Willy. Bon, vous allez dire, ouais, c'est normal, parce qu'il est black. Bon, bon allez, les gars. Et la petite maison dans la prairie.
Ah, il a mis sur la chaîne, oui.
Alors, à chaque fois, bon, bah, c'est plus un épisode, voire deux épisodes. Hein. Shérif, fais-moi peur, aussi. Et il a eu un rôle un petit peu plus récurrent, parce que ça a quand même duré 6 ou 7 épisodes, dans Flamingo Road. Quelle classe. Il a également fait une apparition dans Agence Touriste. Et là où il a vraiment explosé, on a vraiment vu sa gueule, c'est quand même, et c'est son premier film, son grand film, premier grand film, et c'est pas n'importe quoi, parce que c'est un film de geek, un vrai, Ghostbusters, bien entendu, et il apparaît également, il apparaît également dans le clip, hein, rappelez-vous le clip Ghostbusters, Ray Parker Jr., voilà, il y est également. Il est également, alors, il a fait les deux en plus, hein, il a fait le 1 et le 2.
Oui.
Hein, mais rôle récurrent donc et après on le voit.
J'aime beaucoup quand il est recruté. Est-ce que vous croyez aux fantômes contre un chef avec beaucoup de zéros, pas de soucis.
Après Ghostbusters, eh bien il tourne dans une série. Là c'est un rôle récurrent qui a duré sur 10 épisodes, 2 saisons carrément quoi. C'est dans Saint Elsewhere. Alors très peu de gens connaissent cette série Saint Elsewhere, qui est quand même une des séries qui est la série générique de toutes les séries médicales qu'il y a pu y avoir par la suite, à savoir les ER, à savoir les Chicago Hope et autres séries, je parle même pas de la série d'anatomie, là, je sais pas quoi, là,
Grey Anatomy.
Regardez, jetez un œil sur Saint Elsewhere, vous allez comprendre ce que c'est une vraie série médicale. On l'a vu également dans Mike Hammer un petit peu plus tard en 86. Il fait aussi une petite apparition, enfin c'est une bonne apparition quand même dans La main sur le berceau. Eh oui. Il tourne également dans une série qui est passée complètement inaperçue, qui a été diffusée sur Arte d'ailleurs à l'époque, Wild Palms, qui était une série fantastique, un petit peu pré-Lost, on va dire, ou pré-Heroes, enfin le truc complètement porte-nawak, quoi, où tu comprends rien du début jusqu'à la fin. C'est pas mal, avec James Belushi, avec plein d'acteurs de ce genre.
Je vais prendre ta petite vraiment fiche, parce que j'ai pas tout.
Il n'y a pas de problème. Bien entendu, on en parlait aux antennes avant, The Crow, hein, ouais. Le premier, le seul, l'unique, celui avec l'accident, hein, bah ok. On le voit l'année suivante dans Basketball Diaries, le film qui a un petit peu révélé Leonardo DiCaprio, l'histoire d'un jeune basketteur qui va sombrer dans la dope et tout, dans la dépendance, et un des premiers gros rôles majeurs de DiCaprio. DiCaprio à l'époque il avait 17 ans je crois, un truc comme ça quoi. On le voit ensuite, alors là ça c'est un film
chaque fois qu'il passe à la télé, je le note et vous y avez droit, ça vous le savez, vous allez me le dire.
Le chat dans l'espace?
Mais non, mais non, mais non. Opération Delta Force, bien sûr.
C'est vrai.
Avec Jeff Fahey, bien sûr. Allons. Ça, c'était en 96, 97, ouais, même. Il apparaît également dans Miss Détective, en l'an 2000. Hein, ça vous dit quelque chose? Et ensuite, bon, bah, il s'est contenté de faire pas mal de séries, on va dire, les séries qu'on connaît bien, Preuve à l'appui, Without a Trace, Cold Case, Desperate Housewives. Là, il a un rôle récurrent, quand même, hein, puisque, bon, c'est, sur la saison 2006-2007, Las Vegas, dans Bones, dans Heroes également, et c'est le petit copain de S. Epata Merkesson dans Law and Order, la fin de Law and Order, la dernière saison, quand le capitaine Van Buren croit qu'elle a le cancer et tout ça, elle a son copain qui est là, et c'est Ernie Hudson. Et c'est magnifique, et il est dans le dernier épisode de la saison de Law and Order, donc rien que pour ça, tu vois, quoi. Et je ne vous ai même pas parlé de la série dans laquelle il est magnifique, mais dans laquelle tous les acteurs sont excellents, qui est la meilleure série du monde.
Bien sûr.
C'est Oz, bien entendu, c'est Oz. Où il joue le rôle de Warden, hein, donc du patron de la prison. Et voilà quoi, hein, c'est Ernie Hudson quoi. Hein, on va être vachement content de le voir.
Mais l'autre. Pourquoi n'en avoir parlé dans ce cas-là que comme étant dans Ghostbusters?
Oui, parce que t'as loupé Congo, Léviathan.
Oui, non, mais justement, bon, c'est le genre de film où ça parle peut-être un petit peu moins.
Absalom 2022.
Oh là, avec Ray Liotta.
Oui. Oui. Non mais
j'en ai. Et tu en as oublié un quand même extrême. C'est Dragon Ball Evolution.
Oui. Non, mais je voulais pas.
Tais-toi.
Non, mais je voulais pas. Parce que sinon, je suis obligé de dire qu'il y a également James Marsters dedans.
Et là, c'est ta tréquise chez toi qui va te tuer.
Exactement. Passons au cas de William B. Davis. Alors là, il va être un peu plus impressionnant, le monsieur, parce qu'il fait 1m89. Les gars, hein, il fait la même taille que Tony Parker.
Pareil que moi.
Hein, okay. Alors, vous savez ce que ça veut dire, le B de William B. Davis?
Non, Bill.
Bill, c'est le diminutif de William.
Alors, Benjamin.
Non.
Je ne sais pas.
Button. Non.
Bruce. Bruce, il est né en 1938 à Toronto, donc c'est un Canadien anglophone, il faut savoir que ce monsieur, avant de s'adonner à la comédie et à l'art dramatique, a été champion canadien de ski nautique.
Oui, ça j'avais vu.
Ah ouais. Et il faut aussi savoir qu'il a arrêté de fumer à la fin des années 70, et que donc, quand tu le vois fumer dans X-Files, en fait, il fume des cigarettes aux plantes. Tu sais, les NTB là qu'on peut acheter en pharmacie, c'est ça qu'il fumait quoi. Et en plus, il est porte-parole de l'association canadienne contre le cancer.
Ça a dû le faire chier. Okay. Hein.
Alors non mais justement ça, c'est,
au niveau du tournage, c'est,
au niveau du tournage, ça, il devait avoir un cas de conscience assez énorme quand même quoi. Mais enfin bon.
Ouais, ceci dit, c'était pas du tout une ode à la cigarette, son personnage. Parce que pour vous dire, pour avoir vécu avec des fumeurs, même regarder un plan de X-Files, ça le dégoûtait de la clope.
Moi ce que je trouve génial quand même avec ce monsieur vis-à-vis de son personnage qu'il a dans X-Files, c'est qu'il a transformé une petite série de fantastique, etc., en vrai polar. On arrive vraiment dans du polar à la Marlowe avec lui, et rien que par sa présence, par son style, etc., c'est là où on voit que c'est un acteur qui a, justement, il a cette présence, il a cette stamina, et il est absolument génial.
Alors, il n'est pas qu'acteur parce qu'il a également réalisé un épisode de X-Files, hein, il faut le savoir aussi. Hein.
Alors, juste pour vous tomber le mythe, le dernier plan de William B. Davis dans le dernier épisode où il apparaît dans X-Files, il finit quand même en Indien Navarro perdu dans une cabane en fumant des clopes par la gorge.
Enfin, oui,
faut le rappeler, c'est comme, et il se fait cramer la gueule par un missile d'un hélico. C'est un plan qui est juste n'importe quoi.
Tu parles du dernier épisode. On est d'accord que le dernier épisode, c'est juste n'importe quoi, Dick Files.
Tu parles du deuxième film au cinéma avec le prêtre pédophile, c'est n'importe quoi aussi.
Le dernier film, là, tu parles du deuxième.
Oui.
Non, mais je ne parle pas des films, X-Files, hein. C'est une catastrophe.
Non, j'ai évité aussi.
Non,
la dernière saison, il n'y a qu'un seul épisode qu'on se souvienne, c'est improbable, et c'est juste parce que c'est Carl Zero qui a fait la musique.
Alors, William B. Davis, il a commencé sa carrière d'acteur assez tard quand même. Il est plus vieux que Ernie Hudson et pourtant il commence vachement plus tard puisqu'il commence en 83 et comme il est canadien, il va tourner pour un metteur en scène canadien. Alors bon, généralement les Canadiens c'est les meilleurs, hein. Tout le monde croit que c'est des Américains mais c'est des Canadiens. Il y a qu'à voir William Shatner, Mike Myers, tous des Canadiens.
Ah ouais, c'est Canadiens.
Et
ouais.
Ils tournent quand même dans Dead Zone au départ, quoi.
Ah ben bah, Cronenberg.
Cronenberg.
Bah
quoi,
c'est
donc,
le,
voilà.
Les deux cinéastes de Toronto, c'est Cronenberg
et l'autre
qui a joué avec Cronenberg, mais je le retrouverai.
Atom
et Goyan.
Voilà. Tu parlais d'hélicoptère avant, mais il a fait une apparition dans Supercopter, bien sûr.
Enchaînement. Bon,
et on le retrouve ensuite. Alors là, c'est complètement improbable. Dans Allô maman, ici bébé. Rappelez-vous, Kirstie Alley, John Travolta. Et si vous rappelez pas,
tape sur Google Images là pour voir une photo de lui parce que.
Si vous, non, il y en a pas.
Regarde déjà. Je te rappelle qu'on fait de la radio, Thomas.
Non, mais alors Allô maman, ici bébé. Pour ceux qui connaissent pas, ben mardi, vous êtes devant votre télé sur NT1, 22h25 pour voir.
D'accord.
Il y a pas de problème. Alors là, je savais pas du tout et je l'avais pas du tout repéré, mais enfin c'est vrai que bon, je m'attachais plus au personnage principal. Mais il a également tourné un rôle semi-récurrent puisqu'on le voit dans 3 épisodes dans Wise Guy, un flic dans la mafia.
Ah oui.
Ensuite, il fait 21 Jump Street où là, il arrive quand même à faire 3 personnages différents. Il joue le rôle d'un juge, ensuite il va jouer le rôle d'un flic et ensuite le rôle d'un personnage bon voilà, monsieur
Bonjour,
n'importe
je suis
qui
sur
voilà.
Rôle.
Ensuite l'as de la crime, la première apparition dans un rôle récurrent de Michael Chiklis quand il avait encore des cheveux. Il fait du Sliders, il fait du Poltergeist dans les années 90 et puis ben il y a un mec qui s'est dit tiens, ce mec il a une tronche, je vais le prendre, c'est Kevin Smith dans Giant Bob contre-attaque.
Oh là là.
Non mais tu sais quand Giant Bob ils ont soi-disant envoyé un scénario et tout et puis ils sont obligés d'aller à Los Angeles.
Non mais Jay et Silent Bob c'est post X-Files ça.
Ah non oui ben oui,
oui
c'est en 2001
ce
quoi.
Qui me semblait
2001,
oui.
2001 quoi. Ouais. Ensuite on le voit dans Smallville sur 2 saisons en 2002-2003. Alors comme il est canadien, c'est sûr, série canadienne, donc les enquêtes de Murdoch. Ce qu'on peut voir en ce moment
sur
la 3 le dimanche soir en prime time. Il fait également il a également un rôle récurrent dans Stargate. Alors on parlait de Star Trek.
Non oui,
non,
c'est Ori.
Le chef des Ori, je crois que c'est ça.
C'est un Ori, yes. Ouais, dans Stargate.
C'était lui. Mais
c'est les dernières saisons, c'est là où les gens ont commencé
à sont les photos sur Google, tu vois.
Je l'avais pas du tout reconnu. Ouais. D'accord.
Faut pas avoir des emmerdes, bon continue.
Il y a également Supernatural, il y a également Caprica, la série dérivée de Battlestar Galactica, la nouvelle formule
qui s'arrêtait d'ailleurs.
Ouais, une saison.
Non mais Caprica, de toute façon, c'était un truc fini. Hein. Il y avait pas de.
Ah, je pensais que vous
faire non.
Moi aussi, il me semblait qu'il y avait plus, qu'il y avait 2 saisons qui étaient prévues normalement. Ils ont bricolé une fin
parce que bon ben ça s'est pas fait quoi. Ils disent bon ben ok. Bon, il faut dire que le sujet est un peu ok. Hein, essayez de ramener du public à un truc comme ça quoi. Néanmoins, c'était réussi. Il y a pas de problème. On le voit également dans Human Target, une série dont j'ai parlé il y a pas si longtemps que ça. Hein, série américaine. Avec cette histoire de garde du corps là, tu sais quoi.
Non.
Ouais, bon, c'est pas la peine quoi.
Le smos entre les c'est énorme.
C'est bien, on s'écoute entre nous.
Et il tourne toujours parce qu'il y a en ce moment, cette année là, il est sur 3 projets. Hein. Il y a 2 films et une et pas une série télé et un film télé quoi aussi quoi.
Donc, d'accord.
Hein, il continue de travailler quoi, il y a pas de problème hein, de toute façon quoi. Voilà, donc c'est William Bate Davis qu'on accueillera avec un grand plaisir au TGS le mois prochain. Exactement. Et je peux en profiter pour souhaiter quelques anniversaires.
Ouais, mais
allez,
tu poses une question.
Allez, vite fait.
Attends. Juste, tu poses une question à l'antenne pour faire gagner une place. Voilà, au 0561.
Moi, j'en ai une.
580, voilà. 580. Vas-y, Thomas. Alors, dans ce cas-là,
pouvez-vous me citer le nom de 5 chevaliers d'or dans Senseiya?
Oh. Oh.
Mais pas les signes du zodiaque, les noms
oui,
des
non,
chevaliers.
Oui, les chevaliers d'or. On est d'accord,
ouais.
Hein.
Ouais.
Bah ça c'est dur. Hein. Ah. Parce que même moi. Ah, regarde.
Non, mais.
Allez, on en profite pour souhaiter.
Non, il y a personne là encore.
On en profite pour souhaiter bon anniversaire à Christopher Lloyd, 73 ans aujourd'hui. Ouais. Jeff Goldblum, 59 ans aujourd'hui. Yeah. Saffron Burroughs, 39 ans aujourd'hui. Sœur Derek Jacobi, 73 ans, comme Christopher Lloyd d'ailleurs.
C'est spécial troisième âge aujourd'hui.
Catherine Deneuve, 68 ans. Yann de Bont, 68 ans aussi. Et surtout, Ferenc Liszt, qui aurait eu 200 ans aujourd'hui. C'est l'année liste, bien sûr. Franz Liszt, Ferenc, c'est son nom d'origine hongroise, d'accord. Ok. On peut également plus près de nous, plus près des nous.
L'air absolument largué de Thomas.
Ah ouais. Attends, je vais t'en citer qui vont plus te parler. Alors Shaggy, il aura 43 ans. Shaggy, c'est Bombastic. Ok. Lionel Abelanski, 47 ans. Arsène Wenger, aujourd'hui 63 ans.
Ça,
et elle va te parler également, Sung Shin Lee, qui a 42 ans aujourd'hui, qu'on voit dans Old Boy, dans Lady Vengeance.
Ah oui.
Eh oui. D'accord. 42 ans aujourd'hui. Okay. Et pourtant, elle ne les fait pas, hein.
Non, c'est sûr. Mais les Asiatiques, en règle générale, ne font pas leur âge, hein.
Par contre, quand elle commence à vieillir, c'est très rapide.
Oui.
En fait, c'est ça. Il y en a deux là, ils me sont très bien renseignés.
Vas-y, quoi. Rafi... On va faire une émission sur les lieux communs.
Non, mais c'est vrai, les Asiatiques, qui est jusqu'à 50 ans, ils vieillissent pas, mais à 50 ans, d'un coup, du jour au lendemain.
Tous les auditeurs asiatiques.
Bref.
On va aborder son
On les aime beaucoup, hein.
Oui, attends, tu m'étonnes.
On va avoir vraiment beaucoup d'emmerdes. Moi, je vous dis pas déjà rien qu'en rentrant à la maison.
Tu me parlais du chat dans l'espace, il est de retour.
Oh non!
Demain soir sur Disney Ciné Magique à 20h30, le film de Norman Tokar. Avec Ken Berry, Sandy Duncan et Roddy McDowall.
Tu sais qu'il va falloir appeler le rédacteur en chef de Canal BD Manga là, pour lui dire que ça passe.
Ah bah oui.
Il tient à être tenu au courant chaque fois que c'est diffusé. Hein.
Ouais, mais attends, j'en ai un nouveau pour lui que je ne connaissais pas du tout et qui s'appelle Les Copains de l'Espace, également sur Disney Cinémagique jeudi prochain. Alors là, c'est un peu différent parce qu'ils ont pris un bull terrier, ils lui ont foutu un scaphandre et puis il va aller sur la Lune.
Je peux pas accueillir des acteurs, c'est fini, vous, là.
Eh bien, je peux vous annoncer si, effectivement, nous aurons le scaphandre.
Alors, c'est un DTV, hein, c'est un DTV qui est sorti en 2008, donc, avec des acteurs vachement connus, Bill Fagerbakke, Kevin Weissman et Pat Finn. Et le chien, en plus, quoi.
Merci
non,
du sport.
Non, redis-le. Et le chien, en plus.
Et le chien, en plus.
Allez hop. Ce qui nous fait ma foi de fort belles sorties télévision.
Bah écoute,
quel bel enchaînement.
Parce qu'il faut sortir les chips.
Ah oui, d'accord.
Ouais, non.
N'oubliez pas manger trop gras, trop sucré, trop salé et surtout ne zappez pas.
Ouais, non parce que cette semaine, je me suis dit OK, on va faire du Ernie Hudson et du William B. Davis, il y a pas de problème. Je vais prendre le programme de la semaine et je vais regarder tous les trucs où ils sont dedans.
Il y en a pas.
Ah bah, il y en a pas. À part, allô maman bébé. C'est tout. Tu vois?
Voilà. Donc, si vous vous souvenez, quand est-ce que passe cette émission, à la télé cette semaine, vous pouvez gagner immédiatement une place.
Pour le TGS Party.
Voilà. Vous avez intérêt à être bon, hein.
Voilà. Donc, il y aura lieu.
Je veux juste le jour à peu près, hein. Voilà. Ça suffit largement. C'est marqué là.
À 3 jours près.
À plus ou moins, oui.
D'accord, quand même. Oui. Ok, moi j'ai les références là. Donc voilà, pour gagner une place pour le TGS Party qui sera un après-midi geek samedi prochain, donc le 29 octobre. Donc les horaires de c'est 14h, 22h, c'est ça?
Oui.
Voilà.
Exactement.
Donc si vous voulez gagner une place pour le TGS Party, c'est 05 61 580 580.
Et sinon,
vous pouvez. Il suffit de lui dire que c'est mardi en fait. Mmh. Voilà.
on va faire deux sorties BD. On va faire un truc relativement light. Hein, je veux dire, vu l'heure avancée qu'il est, parce qu'on
désolé.
A bien discuté. Mais non, ça fait plaisir.
Non, mais c'est Rafi ça.
L'interview, de toute façon, est décalée à la semaine prochaine puisque c'était l'interview de Agnès Maupré qui était prévue cette semaine à l'occasion donc de la sortie d'un long métrage, si je me trompe.
Un long métrage d'auteur qui s'appelle Les Trois Mousquetaires avec Mila Jovovich dans le rôle de Milady.
Effectivement, c'est un d'auteur.
Voilà, d'auteur.
Ouais.
Et donc, c'était la dessinatrice de la bande dessinée Milady de Winter.
Voilà. Donc, sur le sujet. Après, en plus, la semaine prochaine, on aura peut-être une interview en live de, en plus, en même temps, je ne sais pas si ça a déconné autant que ça. Mais à mon avis, vous aurez de la graine à prendre hein, auprès de Francis Grou pour réussir à transformer un petit truc associatif en gros business qui marche et qui occupe toute la ville d'Angoulême puisque c'est le fondateur du Festival International BD d'Angoulême. On va commencer les sorties avec un petit recueil, un petit omnibus en fait. Enfin, petit.
relativement épais. Là, il fait quand même dans les 380 pages au jugé. De Naoki Urasawa sont les histoires courtes, donc dans la collection Sensei chez Kana. Et avant de devenir l'auteur à succès de 20th Century Boy, de nous retourner avec Monster, qui est franchement un manga absolument exceptionnel hein, sur le côté polar.
Et nous trouver le cul avec Pluto.
Où il se frotte avec le grand Tezuka. Figurez-vous qu'il avait une histoire avec Tezuka. Quand Tezuka faisait toutes ces séries au kilomètre où il avait été dans plein de revues en même temps, les éditeurs étaient quand même obligés de prévoir des séries, des petites histoires courtes au cas où Tezuka n'arrive pas à sortir les planches. Mais à chaque fois, il arrivait à sortir les planches sans aucun problème. Naoki Urasawa a eu donc une de ces histoires qui a attendu 3 ans avant d'être publiée, dans le cas où Tezuka n'arrive pas à sortir une planche. Et comme tous ses pairs, Urasawa a commencé par la petite porte. Il a eu sa cargaison de projets qui n'a pas pu aux lecteurs sur le moyen terme. Des séries interrompues par le jugement terrible des sondages de popularité. Et lui aussi, il a longuement cherché son style graphique, voire il en a changé complètement pour certaines histoires. Alors, point de vue histoire, il a aussi cherché sa voie étonnamment à ses débuts, alors qu'on le connaît plus finalement pour le polar et pour le côté art science en SF, il s'était plutôt consacré à l'écriture de gag manga, c'est-à-dire d'histoires courtes, plutôt humoristiques, dont la chute se faisait à la fin du chapitre. Même là, la facilité n'était pas vraiment acquise. Bref, les histoires courtes de Naoki Urasawa sont plutôt des péchés de jeunesse que l'on retrouve là, avec ce qui fera 20 ans plus tard sa patte caractéristique. C'est un peu comme si on relisait le radar, le robot d'un Franquin qui n'a pas encore créé Gaston Lagaffe, ou Oumpapa le pot rouge, avant que Goscinny Uderzo crée Astérix quelques mois plus tard. Alors si vous êtes fan de Naoki Urasawa, ça devrait peut-être vous plaire, mais à mon sens, ce qui devrait plus vous plaire, c'est que soit enfin édité dans son intégralité Pineapple Army, dont seul un tome avait été traduit par Glénat, c'était en 95. Tout le monde ici a forcément un tome, hein, si vous connaissez l'auteur. Non, ben, c'est vous dire, si franchement il est passé complètement inaperçu en France, c'est dommage parce que vraiment de ce côté-là, c'était quelque chose qui était vraiment bien. Mais bon, qui pouvait prévoir dans les années 80 le succès de Naoki Urasawa? Histoire courte dans la collection Sensei chez Kana. Et j'ai fini avec pratiquement pas de voix. Thomas, lui, vous propose pas vraiment, du manga, mais quelque chose de complètement allumé, complètement à part.
Voilà, on va enchaîner avec du Super Sentai. Vous avez pas encore eu des costumes AD en Sentai, vous, dans votre
salon? Si, il y a eu les Power Rangers, finalement.
Oh, oui.
Ah si, si.
Alors c'est vrai que par ce temps de froid, ça aide quand on a des costumes très moulants.
En lycra surtout, le lycra ça tient chaud.
C'est ça.
Ouais. Alors il s'agit aujourd'hui de Théotl, tome 1 Araorus, scénarisé par Toth et dessiné par Milédis et chez Ankama. Alors n'en déplaise à Marc Lièvremont, justement, la mode est décidément au sale gosse. Alors Tabasco, Curbine, Lucie et Ricky sont d'inséparables têtes de lard menaçant de casser la tronche à quiconque veut les déranger dans leurs habitudes, par exemple leur prendre des places dans le bus. Enfin surtout Tabasco et Curbine. Et la joueuse bande se passionne plus pour le jeu Street Fighter que pour les contrôles de maths inopinés du lundi matin. Mais lorsqu'ils font la connaissance du dieu à plumes Araorus sur les ruines d'une borne d'arcade en plein court-circuit, ouais, il faut suivre, les âmes de super-héros qui sommeillent en eux sont sollicitées pour brandir fièrement la bannière du monde des humains. Parce que les dieux entre eux, ils ont décidé, finalement, les humains, est-ce qu'ils méritent vraiment de continuer comme ça? Mais on peut être sûr de rien avec ces bons à rien, surtout occupés à se bastonner avec un rival récalcitrant. Alors voilà, donc on a une bande de losers qui jurent comme des charretiers, qui passent leur temps à se bastonner la tronche. Il y a une amourette entre deux, mais le gars il est trop con pour voir, et puis la nana elle est trop timide pour lui avouer quoi que ce soit. Alors quand on voit la quatrième de couve, il y a marqué « Avertissement, cette BD contient quelques gros mots », alors lequel qui est entre guillemets. Alors ça fait passer le côté très subjectif hein, du quelque, puisque on peut pas dire qu'il y ait trois bulles sans un gros mot dedans. C'est ça qui fait plaisir en fait, parce que c'est vraiment des bourrins, mais qui passent leur temps à... Alors ils jouent au baseball, vaguement, hein, parce que bon, le baseball c'est surtout... ils ont des battes de baseball surtout qui vont leur servir dans la rue. Et en fait, donc ils jurent que par Street Fighter, on a des cases
Bon, c'est plutôt des visuels un peu retravaillés de, mais on voit quand même les Shinshoryuken, les Tatsumeki, ah, comment, alors c'est quoi le tournepied tournoyant de Ken et Ryu?
Ouh là là, ça je me rappelle plus.
non, c'est pas celui-là.
Tatsumeki Senpukyaku, voilà, c'était ça.
Ah, c'était oui, le mot. Là, c'était...
Oh là
oui.
Là.
Et voilà.
Tout à fait.
Vous gagnez une place si vous nous l'épelez au téléphone.
Voilà. Donc Théotl, ça convie la mythologie aztèque avec vraiment des graphismes super Sentai. La dessinatrice à l'occasion des pages bonus qui clôturent le livre, elle explique alors pour faire un Sentai, c'est très simple. Vous prenez des objets du quotidien qui font très années 80, des radios réveils, des grippins, des lampadaires. Et puis vous en faites des super Sentai en mettant des gros yeux dedans et puis ça fait des gros monstres à buter. Alors elle donne plein d'exemples comme ça complètement rigolos et elle dit ne rigolez pas, 80% de ce que je vous ai cité existe vraiment dans super Sentai japonais. Son graphisme vraiment il est particulier, mais elle donne des couleurs vachement chatoyantes, très saturées, avec une jolie texture par-dessus, des bouilles vraiment attachantes et très bourrines aussi, vraiment des personnages mais vraiment bas du front au niveau de la mentalité. Le graphisme, elle explique au départ qu'elle vient de l'école des gobelins. Et quand Toth lui a dit il va falloir faire une série de bandes dessinées mais qui soit avec beaucoup un nombre de pagination assez important, eh bien elle s'est dit je vais changer mon style, je m'en sortirai pas si je fais du crayonné. Et donc du coup elle a été obligée de revoir son style, passer à la moulinette de la tablette graphique, et elle s'en sort bien, je trouve. À un moment donné t'as des gros plans, tu te dis ouf, ça manque de détails, mais finalement ça passe dans l'ensemble. T'as des ambiances colorées qui sont très très travaillées. On voit qu'elles viennent de l'animation. Et puis le scénario de Toth, franchement, au départ, les premières pages, encore un truc un peu crétin et tout. Effectivement, c'est crétin, mais pas que. Et puis ce retournement de situation quand il y a le dieu Araorus qui arrive, alors comme ils sont un peu provocateurs et qu'ils connaissent rien en mythologie, ils disent c'est qui ce poulet. Alors que c'est un aigle qui rappelle vraiment l'aigle majestueux de Nicopol. Donc voilà, on est
bah,
totalement
c'est,
dans
c'est l'aigle fondateur de Mexico.
Voilà. Et donc on a vraiment ce décalage qui est vraiment sympathique. Moi je me suis vraiment bien marré en lisant cette bande dessinée, et puis on attend la suite parce que franchement, on laisse dans un cliffhanger nos personnages avec le héros qui est en plein combat. On sait pas trop comment ça va continuer. On sent que il est investi de pouvoir parce que le dieu lui offre ses pouvoirs, mais comme c'est un crétin, il veut pas trop apprendre, il veut pas trop qu'on lui donne des leçons, donc il va apprendre sur le tas aussi. Donc ça va être très très drôle. Voilà, donc c'est Théotl, le tome 1, Araorus, scénarisé par Toth et dessiné par Melidi. C'est publié chez Ankama.
Et une question qui vient de m'arriver donc sur un réseau social, etc. Patin Couffin de Nicro qui habite à Bruxelles. Donc je remercie d'ailleurs et je salue Nicolas en SPAC d'ailleurs, qui est en Belgique lui aussi. Alors Nicro dit c'est sympa de faire des trucs sur les mangas. Est-ce que ça vous dirait pas de faire un truc sur la bande dessinée franco-belge? J'ai un truc sur Tintin, je suis sûr que c'est d'actualité. Ah, Nick Rodwell, d'accord, ok. Ah, donc, je t'avais reconnu.
Ok, d'accord. Alors oui, juste pour rebondir sur Tintin, vous ouais. qui êtes très science-fiction, manga, est-ce que vous, la sortie de Tintin par Spielberg, c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est, est-ce que vous, déjà vous avez lu la bande dessinée aussi franco-belge, ou est-ce que vous êtes consommateur?
Moi aussi, j'ai tout lu.
J'ai tout lu quand j'étais gamin, j'avais tous les Tintins. Ouais. Doit être chez mes parents là, c'est un truc de malade. Moi c'est vrai que j'avais très peur quand j'ai vu les premières annonces. Je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont nous faire, et puis au final on a vu le premier teaser.
Moi il m'a inquiété au contraire.
Ah non, moi ça m'a rassuré vraiment. Vraiment ça m'a rassuré quoi. Et d'ailleurs aux commandes du jeu vidéo, Michel Ancel et Christophe Herral, qui font la musique, Christophe Herral et Michel Ancel, ouais. Voilà, qui travaillent dessus. Mais en tout cas, le film en lui-même, enfin, moi c'est quelque chose que j'irai voir. C'est clairement quoi.
Ouais, moi aussi je pense. Au niveau visuel, en tout cas, je le trouve très très abouti. Il est très beau, mine de rien. Après, au niveau du scénar, alors évidemment, les puristes qui adorent la BD, je pense, vont grincer des dents, puisqu'il mélange un peu tout.
Il a convié pas mal d'albums.
Oui, voilà, ouais. Parce qu'il rencontre Haddock, ils vont aller faire le secret de la licorne, alors que dans la BD, je crois qu'il le connaît depuis un certain temps déjà, quand ils vont, ouais. Quand ils vont faire ça. Donc, il a voulu tout concentrer, j'ai l'impression, dans le film. Après, moi, je pense que ça peut être un bon divertissement pour ceux qui connaissent pas, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils connaissent pas forcément Tintin. Et puis je sais pas, moi je pense que visuellement il risque de valoir le coup, en tout cas moi j'irai.
Moi j'ai un regret, j'espère qu'il sera dans la sortie sur galette DVD Blu-ray ou VOD, je ne sais pas. Il y a eu un bout d'essai qui a été tourné du temps du vivant d'Hergé par Spielberg. Une fois qu'ils s'étaient rencontrés, Spielberg a dit je me mets immédiatement au travail, on tourne un bout d'essai. Ils ont tourné à La Rochelle, d'après ce que je sais, un bout d'essai de 1 minute de ce qui aurait dû être l'introduction, où en fait on voit un jeune gamin, etc. On voit un ado en impair, etc. Et le vent qui s'obstine à lui faire la houppette, et lui il essaie à chaque fois de le replier, et ça se finit comme ça en fait, avec la houppette. D'accord. Donc c'est un immense plan séquence à ce qui paraît. Ça a été tourné en 83 et juste un mois avant la mort d'Hergé, sachant qu'ils s'étaient rencontrés une première fois en avril et que Hergé était mort en décembre, donc ça s'était fait très vite quoi. Donc ça, j'espère, je ne sais pas si cette vidéo si ce bout d'essai existe réellement ou non, si c'est resté uniquement de la légende, mais j'espère peut-être qu'un jour ça ressorte et qu'on puisse comparer en fait la vision qu'il voulait avoir à l'écran à l'époque où on n'avait pas toutes ces technologies de la 3D et tout le reste, et par rapport à maintenant justement.
Après, enfin, moi je trouve que c'est une bonne chose, même si les puristes de Tintin vont peut-être crier au scandale en disant c'est pas ça, ça s'est pas passé comme ça, ça le mérite quand même de faire parler de Tintin. Parce que Tintin aujourd'hui plus personne n'en parle quoi, enfin je veux dire c'est
une série morte.
C'est terminé quoi. Et alors les gens qui critiquent en disant mais dans les vraies origines c'est pas comme ça, dans les vraies BD, c'est un peu comme X-Men, ça fait pas ça X-Men quand ils ont sorti ce sont des adaptations.
Étonnamment, quand on en parle à Benoît Peters, à Albert Algou, qui sont les tintinologues extrêmement reconnus, hein, et qui ont ferraillé d'ailleurs avec la fondation Hergé, puisque avec la fondation Moulinsart, qui leur empêchait en fait de sortir de nouveaux bouquins d'analyse, des bouquins critiques et tout ça, ils sont allés le voir et des réactions qu'ils ont données, ils ont dit qu'ils ont été très agréablement surpris. Donc
moi j'ai vu le trailer en grand écran, je sais pas pour vous, mais j'ai pris une tarte dans la gueule hein, visuellement. Oui. Tu vois que ça fonctionne, tu vois que c'est Peter Jackson et Spielberg qui sont derrière. Tu vois que les gars derrière, il y a eu du Beowulf avant avec Zemeckis qui est passé avant, qui leur a dit voilà, bon joujou, jouez avec. Et pour avoir vu les échos sur le net au niveau mise en scène, tout ce que ça pouvait apporter, par exemple, il y a un plan où il y a Tintin et Haddock qui sont dans un bateau et la caméra est faite a posteriori, en post-production, ça imite le roulis. Et à un moment donné, il y a Tintin.
C'est là où Raffi a vomi.
Et Tintin se retourne pour voir s'il y a des gens qui les suivent et tout, et il se retourne pour frôler la caméra à 2 cm près. Disait ce plan là il est très saisissant parce que ça rajoute de la tension, mais c'est impossible à faire avec des acteurs en live parce qu'ils sont obligés de c'est un plan séquence, et quand ils regardent et qu'ils frôlent la caméra, c'est à la fin du plan séquence, et c'est pas possible de le faire avec des acteurs, ils se butent la caméra à chaque fois le mec.
Ou alors tu tournes à l'envers comme dans le générique d'origine de Hawaii Police d'État. C'est tourné à l'envers hein, pour que le mec il fasse le demi-tour comme ça, je regarde la caméra alors que la caméra elle vient par l'hélicoptère après avoir fait tout Hawaii.
D'accord.
C'est vrai. Alors là je n'ai pas vu, enfin je me rappelle plus du générique. Mais par contre le générique lui-même visuellement je le vois plus.
La musique est plus prenante. Hein,
c'est vrai. Ah oui, la musique tout le monde la connaît.
Sinon pour rester dans les prépubères mais dans le genre féminin, vous allez recevoir des stars de la pop japonaise, donc de la J-pop, puisque je crois qu'il y a Aso Natsuko qui est prévu. Comment on arrive à faire venir justement des stars, puisque là-bas elle est présentatrice de l'équivalent d'un télématin sur une grosse chaîne régionale, donc elle a, je suppose, elle a un emploi du temps qui est assez serré et tout. Comment ils arrivent à accepter à venir en France alors que le public qu'ils ont en France doit se compter en quoi dizaines de milliers de personnes face à plusieurs dizaines de millions de personnes dans l'archipel.
Vous avez envoyé Rafi en émissaire.
Voilà, exactement. Moi, je suis parti au Japon, non, c'est pas vrai.
Du coup, en fait, alors je vais donner la petite anecdote, hein, du coup, pour le coup. Alors, Asuna Tsuko, faut savoir qu'elle était déjà venue en France puisqu'elle avait fait un concert à Japan Expo. Oui. C'était l'année dernière, je crois.
Oui, l'année dernière, elle avait. Pardon. Attends, non, c'était cette année.
Elle a fait un concert en décembre 2010 à la Maroquinerie à Paris.
Enfin. Oui, mais elle avait été à Japan Expo aussi, je crois.
C'est bon. Possible.
Oui, où elle avait perdu ses valises et tout. Il y a toute une histoire.
Oui.
C'est rigolote.
Voilà. Du coup, voilà. Donc, a priori, et elle fait également une émission sur No Life.
J'ai rien dit.
Qui est Japan in Motion.
Devinez quelle est la seule personne ici qui est abonnée à Numéricable et qui le regrette.
Ah, voilà. Donc concrètement, voilà, elle fait une émission sur No Life qui s'appelle Japan in Motion et tout le monde l'appelle Nachan d'ailleurs. Mm-hmm. Et donc, du coup, voilà. Et donc, en fait, il y a quelques mois. C'était durant l'été, je crois. Il y avait Alex Pilot et Suzuka qui étaient au Japon pour tourner justement Japan in Motion.
Directeur des programmes de la chaîne en question.
Voilà, exactement, et qui ont discuté un peu avec le producteur de Nachan, qui avait envie de faire un concert en France. Et du coup, voilà, donc ils ont parlé un petit peu. Et en fait, ils voulaient faire à la base une date sur Paris, mais Alex Pilot a réussi à lui expliquer qu'il fallait qu'il vienne à Toulouse. Donc tout simplement le Toulouse Game Show. Donc ils l'ont proposé à Sébastien qui a dit oui tout de suite.
Ça
quasiment.
C'est un ambassadeur franchement de choc, parce que Alex commence à être reconnu justement dans le milieu du jeu vidéo, de la musique là-bas, tout le travail qu'ils ont fait jusque-là.
C'est passionné en plus, c'est vraiment passionné. Quoi,
oui, donc,
À mon avis c'est le côté niçois d'Alex, plutôt sudiste, qui a joué aussi.
En fait il avait envie de dire à Nachan, voilà, si tu veux venir faire un concert où les gens vraiment vont t'apprécier, où tu vas être la guest star d'un concert J-pop, quoi, il faut venir, ou de musique, il faut venir plutôt à Toulouse, parce qu'à Paris, aussi bien que ce soit la Japan Expo, le programme, ils ont un programme qui est très complet et tout, hein. Mais le problème, c'est qu'elle aurait été noyée parmi d'autres concerts, parmi d'autres invités, et ça aurait été un concert de plus. Alors qu'en venant à Toulouse, tout d'un coup, c'est un concert de J-Music qui... elle vient exprès pour nous, donc le public va forcément plus l'apprécier. Elle sera mieux accueillie, je pense, que noyée parmi toute une masse d'artistes, quoi, en fait. Mmh. Et puis voilà.
Est-ce que son management a imposé des limites, par exemple pas de plat à base de Trionix, ou
pas de cassoulet, c'est tout, mais non.
Mais parce qu'il faut savoir, elle a pris 82 kilos depuis la dernière fois. Non.
C'est horrible. Oh là, bah, vous êtes un fake.
Après, soit dit en passant, bon, on parle de Asuna Tsuko, il y a aussi Lanvrine Tambourine. Qui viendra, qui est aussi une idole japonaise, c'est un groupe japonais, qui a fait notamment, pour ceux qui connaissent, le générique de Disgaea, l'animé Disgaea. Tu connais pas?
Non.
Et pourtant, c'est un très bon animé, hein, franchement, le adapté du jeu. Et qui va faire, a priori, qui va reprendre des génériques d'animé japonais.
Voilà. En fait, c'est un groupe qui est très connu au Japon pour, en fait, ils sont deux. Ils font beaucoup de covers, en fait.
C'est cover en plus avec une techno assez rythmée, si je me trompe.
Oh, ils font un peu de tout, hein, parce que moi j'ai écouté certains morceaux où c'était vraiment, enfin, tu avais du mal à différencier l'original du cover, quoi, en fait. Hein. Bah, après, ils font visiblement des
Mais
des
tu
versions,
as fait écouter, hein, en off le cover de Evangelion, voilà. Ça s'est trompé.
Ouais,
hein.
C'est, il faut vraiment voir la différence, quoi. En quiz, tu te trompes, c'est sûr.
Non, mais moi je suis nul, j'ai pas de feuille.
Donc voilà, il va faire un concert avec plein de génériques d'animés chantés en japonais. Alors je sais pas, peut-être du Dragon Ball. Je sais pas si Seb a fait passer une liste ou si c'est elle qui décide, je sais pas.
Normalement,
les génériques originaux.
Oui, japonais, hein, on est d'accord. Hein, je chante pas français là.
Lovrin Tambourine, c'est ça.
Oui, Lovrin Tambourine. Oui.
Normalement, elle devrait même intervenir pendant le concert de Bernard Minier le vendredi soir pour chanter le Senseiya, la version japonaise, pendant le concert de Bernard Minier.
Oh là, regarde la tête
est-ce que,
de
est-ce
du
que
sport.
Vous pouvez,
oh là,
vous pouvez retrouver ce candidat de la nouvelle star.
Ah oui, le fameux, je me rappelle. Alors, pour le chevalier, voilà, du Zodiac, c'est ça?
Oui.
Si quelqu'un le connaît, eh bien, qui nous écrive sur le site. C'est avec grand plaisir que nous le ferons passer sur scène.
Parce que là, il va pas être ridiculisé, il va être.
Il
avait été ridiculisé, oui, à cette époque-là. Je me rappelle, ça avait fait un tollé.
C'était Manu Katché. Manu Katché qui avait dit, je te verrai plus dans un resto et les gens qui préparent à bouffer à côté.
Non, mais oui, mais il y en a qui l'appelaient l'extraterrestre, etc. Moi, je me rappelle, on était sur les forums de la chaîne.
Non, mais ça, c'est parce que au sein des gens qui organisent le casting pour cette télé-réalité, hein, de toute façon, ils avaient aussi fait passer le romanesque et tout. Ils ont dit, allez, on va ridiculiser, hein, on va se foutre de leur gueule.
Exactement.
Mais le problème, c'est que ça fait quand même du volume, hein, quand même en audience, c'est qu'ils commencent à le sentir.
Il faut dire aussi que le gars qui a chanté, il y avait mis beaucoup de premier degré aussi, donc ça n'a pas aidé non plus.
Ah oui, bien sûr, bah après, voilà, mais et c'est vrai que
c'est un peu le style aussi de la chanson, hein, qui veut ça.
il l'avait chanté en japonais.
Il manquait le casque en fait.
Oui.
Il y avait Natchan qui avait fait une demande. Elle avait dit, si vous avez des trucs remarquables à me montrer à Toulouse, ce serait sympa. Qu'est-ce qu'on lui montre? Un Airbus A380 dedans.
La centrale de Golfech.
Vous êtes pas loin. Alors, de l'espace.
Ouais, tu sais, centrale nucléaire, ils en ont aussi. Et...
oui.
Et ils sont pas satisfaits de la qualité française. mais bon, on va pas trop en jeter sur Areva. sinon, je ne sais pas si on a fait un tour complètement exhaustif. Après, on va renvoyer sur votre site, sur le Toulouse Game Show.
Toulouse-game-show.fr.
Vous tapez TGS dans un célèbre moteur de recherche.
Et on est les premiers.
Non, mais ça, il faut que je t'explique comment on marche Google sur le profilage. Mais donc, ça n'a pas marché.
Si tu veux, ça va marcher pour les francophones.
Non, parce que moi, TGS, ce que j'ai en premier, je peux te le dire, c'est fabricant de logiciels et tout. Donc, ça n'a rien à voir.
Hein. Oui, mais parce que ça dépend de ton... Si c'est des geeks, normalement, et qui font beaucoup de recherches dans ce domaine-là, je pense qu'on doit tomber
dessus. Voilà, donc...
Moi, c'est les premiers.
Mais moi aussi,
bravo, je te félicite.
Je ne sais pas si en tout cas, on en a fait le tour, puisqu'il est pratiquement 13h28, mais dans l'ensemble, est-ce que vous avez un message à faire passer aux gens? Est-ce que il y a des coups de main que vous cherchez, des découvertes, des trucs que vous aimeriez avoir?
J'appelle à bénévolat pour
non, que sais-je.
On est complet.
On est full. Ouais,
c'est complet, monsieur. Il faut partir maintenant. Hein. non. On est complet. Par contre, moi, j'invite les gens à venir vraiment sur la soirée de pré-ouverture du salon TGS qui aura lieu le vendredi 25 novembre. Parce que cette année, on fait passer Bernard Minet sur cette soirée de pré-ouverture, et c'est un spectacle complet qui va s'appeler Tribute to Coucou Circus, pendant 2 heures, il va être sur scène avec les invités du TGS. Donc, il y aura Marcus, il y aura Sparadra, le joueur du grenier, et d'autres, et beaucoup, beaucoup d'autres, qui vont venir chanter avec Bernard des chansons, un hommage au travail accompli par Coucou Circus. Ça sera tout le générique classique, voilà. Et à la suite, on continue, à la suite de ce concert, on continuera avec un DJ toulousain, enfin, qui est connu à Toulouse, qui est Matt Mendes, qui travaille sur, enfin, qui est un DJ local de Toulouse FM, de vos partenaires, enfin,
on n'est pas dans la même gamme. Eux, ils sont en B, nous, on est en A.
Ah, d'accord.
On est en ligne.
Mais donc, du coup, il va venir faire un mix de 2 heures. Il a déjà travaillé avec Bernard Minet, en plus, ils se connaissent, donc, je pense qu'on va rigoler. Donc voilà, moi, je vous invite vraiment à venir sur cette soirée-là. Et juste si j'ai encore 10 secondes, je veux juste vous dire à tous les geeks et tous les gamers qui sont là sur Toulouse cette semaine, mercredi 26 octobre, au pub 70s, il y a une soirée de pré-lancement en fait de Battlefield 3, avec le jeu qui tournera sur des écrans géants, avec des jeux sur Xbox 360 et PS3 à gagner, des goodies, voilà. Et ça sera en présence du directeur marketing d'Electronic Arts France. Donc franchement, nous, on va aller y faire un tour, je pense, pour aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vous donne rendez-vous là-bas. Et merci beaucoup
de nous
avoir accueilli.
Tu peux donner l'adresse exacte?
Je ne la connais pas.
C'est pas très loin.
Elle sera sur le site. Quand on publiera l'émission, tu le mettras en commentaire.
Exactement.
Voilà. En tout cas, merci Rafi, merci Seb d'être venu passer, de nous avoir proposé de dire allez, on vient foutre le bordel et tout, et et de l'avoir fait franchement avec votre bonne humeur habituelle. J'espère que dans cet immense foutoir radiophonique, j'ai compris quoi que ce soit, parce que sinon heureusement ils ont le podcast pour embobiner,
voilà,
et pour savoir ce qui s'est passé.
Et surtout, quand vous voulez vous fâcher avec des gens, n'hésitez pas.
Ah non, loin de là, franchement, c'était c'est toujours un plaisir de vous recevoir, et du sport va inverser sa place avec moi d'ici quelques instants.
Attends, on va encore faire vite fait là le.
tu es sûr que tu préfères pas la semaine prochaine là? Tu sais, t'as rugby demain.
Bon, c'est comme tu veux quoi. Non, mais le problème c'est que j'ai rien préparé. bravo.
Ah bon, moi qui me suis dit.
Mais totalement
il va avoir
impro.
L'intégrale.
Ah ouais, un impro
complète. Allez, quoi,
vas-y.
Non, mais vraiment quoi. Mais je te dis, je l'ai pas ouvert quoi. Tu vois, il est encore neuf quoi.
Ah, c'est la première de coupe ça.
Ouais.
Pourquoi se lever demain matin? Il y a combien de raisons? 50 en fait, raisons, c'est ça?
50 raisons en première page de l'équipe.
Eh bien, on va tous les lire un par un.
Voilà, dans l'équipe.
Alors, numéro 1.
On va boire une bière demain matin?
Non, mais il y en a qui ont pas mal en plus. Genre, pouvoir cabala à la mi-temps, enfin des trucs comme ça.
Il y en avait une qui était pour ne pas avoir à courir, d'après ce que j'ai compris. Et il y avait les guignols qui avaient un bon gag, c'était parce que comme ça sur la 2 on peut prier et sur la 1 on peut se prier. Et là j'ai avoué qu'elle était pas mal.
Elle est pas mal,
oui, c'est vrai.
Quand même.
Oui, oui.
Donc
un sursaut d'agonie.
Donc voilà, ben du coup on remet la semaine prochaine.
Ok.
Et tout, parce que
Il va falloir que je le relise parce que j'aurais tout oublié.
C'est dire la vacuité du truc.
Si, ils en ont fait un film, mais sinon.
C'était le Super Weekend numéro 293. Oh là, mais c'est bientôt la 300e. Nom de Dieu, Thomas, je crois qu'il y en a qui sont arrivés en cours de route.
Oui.
Et ils ont peut-être écouté en diagonale le podcast ou je ne sais quoi. Et ils ont loupé des trucs.
Bah écoute, nous on était au four et au moulin aujourd'hui, alors j'ai rien noté. Donc sachez juste que c'était une spéciale TGS, TGS Party avec nos deux invités Sébastien Laurent et Rafi de l'organisation du TGS. Et nous avons eu deux gagnants qui nous ont appelés pendant cette émission. Et bravo à eux.
Et du coup, je sais pas, on va peut-être en faire gagner d'autres sur Twitter, sur Facebook, sur Google Plus. Voilà, hop, ça trois réseaux sociaux. Je peux.
Ça existe encore Google Plus?
Merci. Nom d'un grand moment de bonheur et d'adolescence absolument assumé, on va dire. Vous avez manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, poser vos questions. N'hésitez pas. Pour cela, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr, sans accent ni tiré. C'est plus facile à dire à l'antenne, supplementweekend.fr. Je vous laisse deviner le nombre de P, le nombre de E. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Depuis 30 ans, nous sommes en direct et nous sommes en alternance avec Booster FM sur cette fréquence. Et on continue sur radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, comment faire un festival, mais international, celui-ci, de bande dessinée. Et nous allons aussi parler de Milady. Ce soir, n'oubliez pas, c'est aussi la novella en ce moment et c'est en direct sur Radio FMR avec Olivier Hague de l'Esplanade de l'Onde de Miroir. Et ma foi, c'est assez fun. De suite, c'est du sport qui est en train de dérocher en catastrophe l'équipe en papier. Et nous, on se donne, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. C'est un immense plaisir d'être avec vous. Cela fait donc depuis 7 saisons que nous sommes à l'antenne sur le Supplément Week-end. Ça fait bientôt 300 émissions. Et donc, nous serons en direct lors du salon de Colomiers qui aura lieu du 18 au 20 novembre pour la 25e édition. L'invité, c'est Pénélope Bagieu. Et nous serons, je suppose, en direct au Toulouse Game Show qui aura lieu le 26 et 27 novembre prochain à Diagora, à la Bèche. Vous êtes les bienvenus. Ciao, bye bye.